Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV Arcana les mystères du monde. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer les mystères de l'ordre du Temple. Qu'en est-il du fameux trésor des Templiers? Existe-t-il réellement ou s'agit-il d'un mythe symbolique? Y avait-il un ordre occulte ou une société secrète au sein même des Templiers? Et si tel est le cas, ce dernier aurait-il survécu à la chute de l'ordre? Les Templiers étaient-ils véritablement catholiques? N'y aurait-il pas eu quelques idées gnostiques en son sein? Et enfin, qu'en est-il de l'idole, le fameux Baphomet? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre le plus objectivement possible au cours de cette enquête. Alors, précision importante, l'émission que je vous propose aujourd'hui est une conférence que j'ai donnée il y a 6 ans et que j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui en libre accès sur YouTube. Alors, si vous êtes passionné par les mystères de l'ordre du Temple, installez-vous bien, vous êtes au bon endroit et je vous souhaite une bonne émission. Nous allons pouvoir débuter maintenant avec le plan de la conférence qui va se découper en 5 parties. La première, le temple de la naissance à la chute, car il est important quand on aborde ce type de sujet de recontextualiser un petit peu les événements, donc de retracer un petit peu l'histoire des chevaliers du temple. Néanmoins, on va se servir de cette chronologie pour marquer les quelques points d'intrigue qui existent déjà au sein même de l'histoire chronologique de l'ordre. Ensuite, on passera dans une deuxième partie qui va traiter de l'énigme du trésor matériel, les différentes pistes, les différentes légendes qui existent autour du trésor matériel, et puis nous allons voir un petit peu la cohérence de toutes ces différentes histoires. En troisième partie, nous allons parler de l'architecture, mais également de l'hypothèse de l'archéologie templière. Alors, l'archéologie déjà matérielle, puisque nous avons retrouvé des vestiges de l'ordre du temple, mais également son aspect légendaire par rapport aux soi-disant fouilles que les templiers auraient effectuées dans le temple de Salomon et auraient éventuellement retrouvé un trésor avec une connotation spirituelle ou mystique. La quatrième partie, nous parlerons des croyances des Templiers, quels étaient leurs rites, quel était leur fonctionnement, et nous parlerons plus spécifiquement de l'énigme du Baphomet, la fameuse idole que, soi-disant, les Templiers auraient vénérée, dont nous avons quelques témoignages dans les procès, et notamment, j'ai exhumé un petit peu les archives du Vatican que certains auteurs ont publiées, afin de vous présenter ces témoignages et surtout ceux qui vont mentionner donc le Baphomet ou la fameuse idole qui aujourd'hui est un symbole que l'on retrouve un petit peu partout. Nous allons tenter de voir ce qui est cohérent et non dans cette histoire. Et puis nous terminerons cette émission avec la cinquième partie qui parlera de la survivance des Templiers, mais surtout de sa survivance multiple sous différents aspects, ce que j'ai appelé un ordre aux 100 visages. Donc n'attendons pas plus longtemps et attaquons directement avec la première partie, soit le temple de la naissance à la chute. Donc on va parler de la fondation du temple, de l'idéal et de l'ascension des premières années, puis ensuite l'âge d'or des templiers avec quelques chiffres, le déclin et la décadence pour continuer, et puis nous terminerons avec la chute de l'ordre, assez grossièrement puisque nous ne rentrerons pas dans tous les détails historiques, je vous ai déjà proposé une émission qui traitera de ce sujet. Alors commençons avec la fondation du temple. Celle-ci est indissociable d'un autre personnage qui s'appelle Hugues de Pin. Alors Hugues de Pin est un noble, c'est un homme de la haute société de Champagne, donc Champagne, autour de la ville de Troyes, dans un petit village qui s'appelle Pin. Alors bien qu'il existe quelques divergences dans le monde des historiens quant au lieu de naissance de Hugues de Pin, certains le font venir de d'autres régions de France, mais actuellement la théorie qui fait consensus est qu'il vient du village de Pin, à proximité de la ville de Troyes. Alors, intéressons-nous rapidement à ce personnage tout d'abord. Hugues de Pin s'est rendu lui-même en Terre Sainte entre 1104 et 1107. Pour recontextualiser un petit peu les événements, je vous rappelle que la première croisade a débuté suite à l'appel d'Urbain II, donc le pape, qui a lancé l'appel en 1095, et la croisade s'est mise en place sensiblement l'année suivante, en 1096. Elle s'est rendue en Terre Sainte avec plusieurs armées. Les croisés ont pris la ville d'Antioche puis de Jérusalem, puis ont fondé les États d'Orient à partir de 1099. Et à ce stade, Hugues de Pin n'a pas participé à la première croisade. Ça, c'est très important de le préciser. Les premiers chevaliers du Temple, si l'on peut dire, n'ont pas été des membres de la première expédition militaire en Orient. Ce ne sera que par la suite. Évidemment, suite à la première croisade, il va y avoir une installation permanente des croisés, ou si vous préférez des latins, sur les territoires donc d'Israël-Palestine, ou plus génériquement, on va dire le Proche-Orient, puisque les territoires sont un petit peu plus étendus que le pays d'Israël actuellement. Mais dans tous les cas, ces croisés font une installation permanente et fatalement, d'autres chevaliers européens vont partir soit en renfort, soit pour tenter l'aventure, soit pour démarrer une nouvelle vie en Orient. Alors Hugues de Pin n'a pas forcément pour ambition dans les premiers temps de s'installer définitivement en Orient. Il voyage en compagnie d'un autre noble de son suzerain, en l'occurrence qui s'appelait Hugues de Champagne, et donc il va passer 3 années en Terre Sainte. Cela va profondément marquer le personnage, puisqu'il va décider d'y retourner quelques années plus tard. De retour en Champagne, nous savons qu'Hugues de Pin va se marier, il a probablement eu des enfants, mais dans tous les cas, en 1114, il se décide à repartir en Terre Sainte, et il va y rester, si l'on peut dire. Alors, en réalité, il refera quelques voyages en Occident, mais à ce stade, en 1114, Hugues de Pin décide de s'installer définitivement en Terre Sainte. S'ensuit les premières difficultés de la vie en Orient. Dans les chronologies du temple et dans les hypothèses qui mènent à sa création, on nous dit que Hugues de Pin, accompagné de d'autres chevaliers, avec des noms variables, hein, comme notamment Godefroy de Saint-Omer, vont pendant ces quelques années réfléchir à la création d'un ordre militaire dans le but d'assurer la sécurité des pèlerins qui font le voyage donc dans les États latins d'Orient, qui se rendent à Jérusalem, mais également les routes de circulation des États latins d'Orient. Ça, c'est l'explication communément admise de l'origine de la fondation des Chevaliers du Temple. Ces derniers auraient été une sorte de milice armée afin de sécuriser les routes de Terre Sainte. Donc, au bout de quelques années de réflexion, cela va aboutir à la création officieuse, comprenez bien, de l'ordre du Temple, à partir de 1118 ou de 1119. Aujourd'hui, dans le légendaire populaire, on nous raconte qu'il y aurait eu 9 chevaliers fondateurs pour l'ordre du Temple. Néanmoins, il faut savoir d'où vient cette information. Eh bien, en réalité, c'est des textes qui seront écrits environ 100 ou 150 ans après la fondation du Temple, qui vont donner ces chiffres de 9 chevaliers à l'origine de la création du Temple, notamment dans les chroniques de Guillaume de Tyr et de Hernoul par la suite. Or, à cette époque, ce que diront les premiers chroniqueurs, ils diront qu'il y avait quelques chevaliers faisant partie de cet ordre du Temple, mais ils ne vont pas spécifiquement donner le nombre 9. Donc, à ce stade, sur un point de vue historique, qu'est-ce que l'on peut dire? Il y a eu plusieurs chevaliers qui se sont regroupés autour de la figure de Hugues de Pin pour fonder l'ordre du Temple, mais on ne peut pas du tout affirmer qu'ils étaient 9, ils étaient peut-être plus, peut-être moins, c'est difficile à dire. Donc, la mise en place du chiffre 9 au sein de cette légende appartient, à mon sens, plus à un aspect symbolique ou mystique, peut-on dire, et n'a pas forcément attrait à une réalité historique. Nous reviendrons sur cet élément par la suite. Continuons pour le moment la genèse de l'ordre du Temple. Donc, celui-ci sera créé officieusement, il sera reconnu cette fois-ci officiellement à partir de 1120, au concile de Naplouse, donc Naplouse en Orient bien sûr, où il est créé officiellement. Dans la suite des événements, le roi de l'époque, à savoir Baudouin II, roi de Jérusalem, va leur octroyer des bâtiments, afin qu'ils puissent s'organiser pour assurer leur mission, du moins celle qu'ils se sont donnée officiellement, à savoir protéger les pèlerins sur les terres des États latins d'Orient et pour le pèlerinage. Quelques années plus tard, Hugues de Pin dirige sa petite milice qui est encore assez peu nombreuse. Il faut comprendre que c'est un petit regroupement de chevaliers qui n'a pas du tout les effectifs suffisants pour la mission qu'il s'est accordée. Il est évident que s'ils étaient, comme le dit la légende, 9 chevaliers ou s'ils étaient ne serait-ce qu'une cinquantaine, cela est bien insuffisant pour sécuriser la route du pèlerinage et les différents chemins de communication en Terre Sainte. Donc cela ne semble pas la seule explication possible pour la genèse et la volonté de création de l'ordre du Temple. Donc en 1127, Hugues de Pin sera en Occident dans le but de convaincre les seigneurs, de convaincre les personnes influentes de l'Occident de soutenir sa nouvelle organisation, de l'encourager afin d'avoir des effectifs suffisants pour pouvoir assurer cette mission qui était la protection du pèlerinage et des routes en Terre Sainte. Alors, c'est grâce à un personnage notamment que l'ordre du Temple va pouvoir rayonner et va pouvoir avoir un soutien important, grâce tout d'abord au roi de Jérusalem, à savoir Baudouin II, qui va écrire de nombreuses missives en Occident pour soutenir l'ordre, mais surtout il va solliciter l'aide de Bernard de Clairvaux, donc Bernard de Clairvaux qui était un personnage important de la chrétienté de cette époque, lui-même moine cistercien à l'abbaye de Clairvaux. Et après moult demandes, Bernard de Clairvaux va finalement accepter de publier un texte pour faire la promotion, si l'on peut dire, de ce nouvel ordre du Temple. Alors c'est un texte qui s'appelle de l'Aude, ou Éloge de la nouvelle chevalerie chrétienne, et donc un texte qui a pour but de défendre l'idéal des Templiers, et cela va aboutir 2 ans plus tard à la réunion donc, du Concile de Troyes. Concile de Troyes, donc rappelons, nous sommes dans le secteur qui a vu naître Hugues de Pin, et le secteur symbolique duquel sont issus les premiers Templiers. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont tous issus de là-bas, mais l'idée a très probablement germé dans le comté de Champagne. Puisque, faisons un petit retour en arrière, Hugues de Pin s'était rendu en Terre Sainte entre 1104 et 1107, et notamment en compagnie de son suzerain qui s'appelait Hugues de Champagne. Et ce même Hugues de Champagne, par la suite, va abandonner ses titres au profit de son fils et va lui-même rejoindre l'ordre du Temple. On peut donc supputer à ce stade qu'il y a eu une première réflexion ou gestation de l'idée de création de l'ordre du Temple dans le comté de Champagne, ou du moins dans ce secteur géographique. Pour revenir à notre temporalité, en 1129 se réunit donc le Concile de Troyes, avec notamment Bernard de Clairvaux et le pape, et ce sera la reconnaissance officielle de l'ordre du Temple par la papauté, avec une bulle pontificale qui va leur donner une règle. Alors une règle, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, les Templiers sont à la fois des chevaliers du Christ, mais également des moines. Et donc de ce fait, comme tous les moines, ils doivent avoir une règle de vie, une règle de fonctionnement, de la même façon que la règle de Saint-Benoît ou la règle des Cisterciens, l'ordre du Temple va avoir sa propre règle. Et cette dernière sera en grande partie calquée sur celle des Cisterciens, puisqu'elle sera rédigée notamment par Saint-Bernard de Clairvaux. Et pour continuer le voyage, donc à partir de 1130, c'est-à-dire après la reconnaissance officielle, Hugues de Pin va continuer à faire sa promotion, il va voyager en Occitanie, en Anjou, mais également en Angleterre, et va récolter des dons, des seigneurs vont faire des dons monétaires, mais également des dons de terre, c'est-à-dire de territoire, qui seront octroyés à l'ordre du Temple, dans le but de les soutenir, de leur accorder des ressources financières, et de leur permettre donc un meilleur recrutement, afin de pouvoir envoyer des hommes en Orient, et soutenir la guerre sainte, et protéger les routes des pèlerins, bien entendu. Alors, continuons l'aventure de l'ordre du Temple avec 2-3 questions en suspens. La première, que l'on va tenter de répondre dans la suite de cette émission, c'est la création de l'ordre du Temple a-t-elle uniquement pour vocation de protéger les routes des pèlerins? Y a-t-il un autre but à la création de l'ordre du Temple? Nous tenterons d'y répondre par la suite. Pour l'instant, continuons la chronologie. En 1136, donc Hugues de Pin est décédé, c'est un autre personnage qui va prendre la tête de l'ordre, c'est Robert de Craon qui succède à Hugues de Pin. Alors, chose importante, dans l'ordre du Temple, l'élection du grand maître ne se fait pas par une sorte d'héritage comme la monarchie ou les duchés ou les comtés. C'est une élection, ce qu'on appelle un chapitre. Les dignitaires de l'ordre, les personnages importants, vont se réunir et ils vont élire, un suffrage démocratique si l'on peut dire, le nouveau grand maître. Et ce sera donc Robert de Craon qui va succéder à Hugues de Pin. Ce personnage aura également une importance fondamentale dans le développement de l'ordre du Temple, puisque au bout de quelques années de lutte avec les personnages les puissants de cette époque, il va réussir à obtenir certains pouvoirs auprès de la papauté. Pourquoi cela, tout d'abord? Eh bien, l'ordre du Temple se trouve être une organisation qui est totalement nouvelle. Son fonctionnement, son architecture n'existait pas auparavant. Il s'agit bel et bien d'hommes qui sont à la fois chevaliers, c'est-à-dire combattants pour la foi, pour la guerre sainte, mais de l'autre côté, ce sont aussi des moines. Donc cela peut sembler incompatible de prime abord. Comment être un moine et porter l'épée pour tuer sur le champ de bataille? Et donc, évidemment, certains ecclésiastiques vont se lever, vont s'exprimer contre l'ordre du Temple, disant que sa création et son fonctionnement étaient une infamie. Robert de Craon va donc lutter contre ses opinions diverses et va réussir à obtenir du pape, en 1139, une bulle pontificale, Omne Datum Optimum, qui va émanciper l'ordre du Temple de tous les pouvoirs temporels et religieux de son époque. À partir de cette date, l'ordre du Temple ne prendra ses ordres uniquement du pape. Il ne répond qu'au pape et se trouve totalement indépendant sur plusieurs aspects. Il est indépendant de ses vassalités, c'est-à-dire qu'il n'a pas de vassalité envers un suzerain divers ou varié, uniquement le pape et l'église chrétienne bien sûr, mais il sera également émancipé de l'impôt. Contrairement aux autres organisations, l'ordre du Temple ne doit pas payer d'impôts ni aux seigneurs locaux, ni la dîme de l'Église. Il sera totalement émancipé de tout rapport financier avec les autres organisations. Le chemin ne s'arrête pas là. En 1145, Robert de Craon va réussir à obtenir d'autres privilèges avec une deuxième bulle papale qui s'appelle Pontifical Militia Dei, avec notamment ce port de la croix pâtée rouge. Vous savez, aujourd'hui, on voit régulièrement le symbole templier avec cette fameuse croix rouge, avec des pattes relativement de la même longueur, un petit peu évasées sur les serrés côtés. Donc cette fameuse croix pâtée n'était pas... Alors tout d'abord, ce n'est pas une croix qui est spécifique à l'ordre du Temple. On retrouve de nombreux ordres divers et variés ou croisés qui portaient des croix rouges sur leurs vêtements, et notamment la croix pâtée. On trouve par exemple l'église copte du 6-7e siècle en Égypte, qui avait tout à fait l'usage de cette croix pâtée. Donc il ne faut pas croire que la croix pâtée rouge est uniquement spécifique aux Templiers. Mais du moins, à partir de 1145, la croix pâtée rouge devient le symbole, peut-on dire, officiel de l'ordre du Temple. Ce sera également le moment où l'ordre du Temple va bénéficier de nouveaux avantages au niveau des sacrements de l'Église. À cette époque, même si l'ordre du Temple était émancipé de l'impôt envers l'Église, il lui était encore dépendant au niveau des messes, au niveau des confessions et au niveau des différents sacrements. Or, à partir de cette date, l'ordre du Temple aura le droit de posséder en son sein, parmi ses frères, ses propres chapelains. Donc ils pourront célébrer eux-mêmes la messe, pourront exécuter la confession dans leur mur, et donc procéder à tous les rituels religieux, quels qu'ils soient, que ce soit funéraire ou autre, directement au sein du Temple. Donc c'est véritablement un ordre au sein de l'Église chrétienne, qui est totalement indépendant de tous les autres pouvoirs. Alors ensuite, Robert de Craon laissera sa place après son décès à un nouveau grand maître qui s'appelle Évrard de Barès, entre 1147 et 1149. Donc une maîtrise relativement courte, mais un des derniers grands personnages fondateurs de l'ordre du Temple. Donc Évrard de Barès a une particularité, c'est qu'il va vivre les éléments de la deuxième croisade qui seront dramatiques pour la chrétienté, puisque ce sera un lourd échec du roi de France Louis VII face au mur de Damas, et puis plusieurs déconvenues dans les états latins d'Orient. Mais Évrard de Barès va réussir à son niveau, si l'on peut dire, à sauver une partie de la population, car à partir de ces dates, donc à partir de 1147-1149, on constate que l'ordre du Temple a réellement acquis une véritable puissance temporelle militaire. C'est une force qui compte en Orient et qui pèse dans le poids de l'échiquier politique. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'ordre du Temple a été fondé en 1118-1119, et une trentaine d'années plus tard, l'ordre du Temple est devenu une véritable armée puissante, disposant de moyens financiers, disposant d'effectifs, et qui va pouvoir faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre dans l'avenir des États latins d'Orient. Autre particularité de ce personnage, donc d'Évrard de Barès, ce dernier, en 1949, décrète qu'il ne se sent plus en état de diriger l'ordre du Temple, qu'il a fait son temps, qu'il a fait ce qu'il avait à faire, et va décider d'abdiquer, de laisser sa place. La transition va se faire plus ou moins doucement, si l'on peut dire, avec un autre, avec Bernard de Tramelay par la suite, mais Évrard de Barès va quitter l'ordre du Temple et rejoindre un monastère, le monastère des Cisterciens en l'occurrence, afin de prendre sa retraite. Et donc là, on va finir cette période d'ascension complète de l'ordre du Temple. À ce stade, il possède déjà de nombreuses commanderies, de nombreuses richesses temporelles et a un lourd processus de recrutement qui va permettre d'avoir une armée complète qui lui permet également d'assurer sa mission de protection des routes en Terre Sainte. Continuons l'histoire de l'ordre du Temple pour parler de l'âge d'or des Templiers que l'on peut situer sensiblement entre 1150 et on va dire 1187. La première chose sur laquelle il va falloir s'attarder concernant l'ordre du Temple, ce sont ses possessions territoriales. On dénombre, du moins les historiens dénombrent à ce stade, qu'il existait environ 9000 possessions territoriales appartenant aux Templiers. Mais attention, ces 9000 possessions ne sont pas toutes des commanderies. Alors, nous verrons par la suite ce qu'est exactement une commanderie, mais considérez qu'une commanderie est une sorte de petite place fortifiée qui va contenir plusieurs bâtiments, chapelles, des métairies, mais également éventuellement un moulin, éventuellement un forgeron et tout un tas d'autres choses. Donc on dénombre sensiblement environ 1200 commanderies entre l'Europe et le Proche-Orient. Les 9000 possessions territoriales vont dépendre de ces dites commanderies. Donc, comprenez que dans les 9000 possessions du Temple, il y a tout d'abord les 1200 commanderies, Il y a également les baillis, c'est-à-dire les commanderies générales, qui vont être une sorte de commanderie plus importante qui va avoir sous domination d'autres commanderies plus modestes. Et puis encore au-dessus, nous allons avoir les provinces. Alors par exemple, la province d'Aragon qui va diriger toutes les commanderies du secteur d'Aragon. Donc comme on va avoir la province de Bourgogne, la province d'Aquitaine, etc., etc. Pour ce qui est des autres possessions territoriales, il s'agissait parfois d'une ferme isolée ou d'un moulin qui appartenait à l'ordre du temple et qui dépendait d'une commanderie. Mais il ne faut pas croire qu'il y avait 9000 commanderies, bien entendu. Alors, toutes ces possessions territoriales, le temple ne les a pas toujours possédées. Il faut bien comprendre qu'en 1118, les templiers n'ont pas toutes ces commanderies, ils ne possèdent que la maison mère de Jérusalem et ça s'arrête là. Les possessions territoriales seront dues principalement aux dons que vont faire des seigneurs, où ils vont léguer des terres à l'ordre du temple, et cela va commencer sensiblement à partir de 1130, et cela va continuer pendant toute la durée de vie de l'ordre. On peut considérer que le moment où les templiers ont le plus de possessions foncières sera sensiblement pendant le XIIIe siècle. Ensuite, intéressons-nous à la flotte ou la marine de l'ordre du temple. Alors, à ce stade, dans les textes historiques, on peut dénombrer une quinzaine de navires dont les noms nous sont connus. Mais attention, ce n'est pas parce que nous ne connaissons que 15 noms de bateaux qu'il n'y en avait pas plus. Alors, dans la flotte des Templiers, il y a plusieurs phases et plusieurs étapes. Au tout début, le temple n'a évidemment pas de navire au moment de sa création. Et dans les premières années, c'est-à-dire jusqu'à 1130 et même jusqu'à 1150, le templier n'est pas doté d'une marine personnelle. Les templiers vont louer les services des flottes de cette époque, et principalement des flottes génoises, pisanes, mais également vénitiennes. Éventuellement aussi d'Angleterre et de France, mais plus modestement. C'est principalement les flottes génoises et pisanes. Progressivement, l'ordre du temple souhaitant devenir totalement indépendant, il va se doter de sa propre flotte. Alors, les bateaux seront commandés justement aux armateurs de Pise, de Florence, de Pise, de Gênes et de Venise. Mais néanmoins, le temple n'aura jamais une flotte absolument colossale. Ils vont continuer durant toute la période de leur existence à louer les services des flottes pisanes, génoises et vénitiennes pour le transport des troupes et des chevaux. Néanmoins, ils vont quand même se doter d'une flotte pour leur usage personnel. Dans les 15 noms de navires que nous possédons la plupart des navires dits connus, ou des navires qui avaient une importance, comme par exemple les navires amiraux ou autre chose, comme le célèbre Faucon, un des plus gros navires que possédait le temple et qui était basé sur l'île de Chypre ou à Saint-Jean d'Acre préalablement. Donc la flotte de l'ordre du temple comprenait quelques nefs, des vaisseaux qui étaient dévolus au voyage dans l'Atlantique, c'est-à-dire notamment pour allier l'Écosse, l'Angleterre avec le continent, jusqu'à l'Espagne ou le Portugal. Et puis, il y avait d'autres vaisseaux plus modestes, notamment des galères principalement, qui étaient utilisés pour le transport de troupes, le transport des chevaux et du matériel en Orient. Donc, la flotte de l'ordre du Temple, ils avaient une certaine puissance maritime, mais néanmoins, il ne faut pas comparer la flotte de l'ordre du Temple aux marines génoises, pisanes ou vénitiennes, qui étaient largement plus importantes. Alors, qu'en est-il maintenant des effectifs connus de l'ordre du Temple ? Eh bien, cela reste une véritable énigme. Il n'existe aucun recensement spécifique qui permette de dénombrer les effectifs de l'ordre du Temple. Alors, bien sûr, déjà, il faut faire une petite distinction. Dans l'ordre du Temple, on va dissocier plusieurs types de personnages. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les manteaux blancs, c'est-à-dire les chevaliers de l'ordre du Temple, ceux que l'on voit dans tous les dessins. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les sergents, c'est ceux qui ont un vêtement de bure noir avec une croix rouge, et en général, pour faire un petit rapport statistique, on considère qu'il y a environ 2 sergents pour un chevalier. Et puis ensuite, on va retrouver les frères chapelains, donc ceux qui sont dévolus aux offices religieux, et on va trouver également les frères de métier, et on considère sensiblement qu'il y a environ 3 frères de métier pour un sergent. Donc, vous voyez, en gros, il y a à peu près 6 à 7 frères de métier pour un seul chevalier. Donc comprenez, si on fait une échelle sur 10 personnages, on va compter pour un chevalier du temple, il y a 2 ou 3 sergents et environ 6 ou 7 frères de métier, pour vous faire un petit rapport numérique. Alors pour tenter d'analyser un petit peu les effectifs de l'ordre du temple, on va s'intéresser au moment de leur arrestation. Au moment, alors en France, où ils sont arrêtés, alors comprenez, uniquement en France, hein, je ne parle pas de l'Espagne, Portugal, Italie, l'Orient, enfin l'île de Chypre, etc. Donc en France, il y aura 546 arrestations de Templiers en France. Ces arrestations concernent les frères manteau blanc du temple, les chevaliers si vous préférez, mais également les frères sergents, manteau noir. Voilà, cela ne comprend pas les frères de métier. Donc on peut considérer que s'il y a 546 arrestations en France, on peut imaginer qu'il y a environ au moins 2 à 3 000 frères de métier sur le territoire. Sachant qu'au niveau des templiers qui se sont échappés, on considère en France que 12 ou peut-être une vingtaine ont échappé aux arrestations en 1307. Pour le cas de l'Angleterre, on va dénombrer 135 arrestations de chevaliers de l'ordre du Temple, et donc on peut considérer à peu près les mêmes rapports de proportion. Donc il est très difficile d'avoir une estimation globale du nombre de templiers, au moment de son âge d'or. Pour vous faire une petite idée, imaginez que dans une commanderie templière, une commanderie modeste, hein, pas une baillie ou une province, dans une commanderie modeste, il y avait peut-être un ou deux chevaliers du Temple, peut-être même trois, sachant que parmi ces 10 chevaliers du Temple, en réalité, il y avait sûrement un manteau blanc pour deux sergents, peut-être même qu'il n'y avait que des sergents, c'est très difficile à dire. Mais comprenez que dans une commanderie, il n'y avait pas 15 chevaliers de l'ordre du Temple, pas dans une commanderie modeste, hein. Il y en avait peut-être deux ou trois seulement. Et puis, à côté de ça, il y avait des frères de métier, des gens qui travaillaient la terre, ou des employés, des métayers, qui travaillaient aux fermes, ou à la forge, ou tout un tas d'autres choses. Donc, comprenez s'il y a environ 1200 commanderies de l'ordre, eh bien, comprenez que cela peut représenter à peu près 3600, peut-être imaginons, poussons à 4000 chevaliers de l'ordre du Temple et sergents dans toute la chrétienté de cette époque. Soyons fous en poussant un chiffre à 5000, mais comprenez bien que l'ordre du Temple n'a pas compris 20-30 000 personnes, cela n'est pas vrai. Cela est vrai si l'on considère les frères de métier, mais ce n'est pas vrai si l'on parle uniquement des chevaliers manteau blanc et des sergents manteau noir. Alors, allons un petit peu plus loin et commençons à parler de la chute de l'ordre. Alors la chute de l'ordre ne va pas se faire en un jour, hein. Comprenez bien qu'à partir de 1187, quand il y aura la défaite de la bataille de Hattine et la chute de Jérusalem reprise par Salahaddin, les États latins d'Orient vont commencer à lutter pour leur survie et cela va durer pendant un petit peu plus d'un siècle. L'ordre du Temple va commencer à se mêler dans toutes les intrigues un petit peu politiques de cette époque. Et comprenez que l'ordre du Temple de ce siècle n'aura pas tout à fait le même aspect que dans le siècle précédent. Cela ne veut pas dire que le Templier reste avec sa règle de fonctionnement, il reste avec sa hiérarchie et son organisation, si l'on peut dire, et ses méthodes de recrutement, mais on va commencer à ressentir un certain laxisme, notamment avec Robert de Sablé. Donc Robert de Sablé, qui est le nouveau maître du Temple après la bataille de Hattin, c'est-à-dire qui va accompagner l'armée de Richard Cœur de Lion lors de la Troisième Croisade. Il va prendre la tête de l'Ordre du Temple après le triste Gérard de Ridefort, sombre personnage de l'histoire du Temple. Et donc Robert de Sablé va commencer à adoucir les règles de recrutement. Donc le Temple va recruter un petit peu plus massivement et être un petit peu moins regardant sur le recrutement. Et cela va évidemment progressivement réduire un petit peu la hiérarchie morale, si l'on peut dire, de l'organisation. Alors, l'arrestation de l'ordre, c'est-à-dire, va intervenir en 1307, mais ceci n'est en réalité pas arrivé du jour au lendemain. L'ordre du Temple va perdre, enfin, l'ordre du Temple, pas uniquement eux, bien sûr, les États latins d'Orient vont perdre leur dernière possession territoriale en Orient à partir de 1291, au moment de la chute de Saint-Jean d'Acre, et puis progressivement, les Templiers se regroupent sur l'île de Chypre, mais la Terre Sainte est perdue à ce stade. Et donc, certaines personnes en Occident commencent à remettre en cause l'existence de cet ordre militaire, puisque l'Orient étant perdu, les Templiers ont-ils encore une raison d'exister ? Donc, chemin faisant, il y a également des rumeurs qui vont graviter autour de l'ordre du Temple. Certaines rumeurs, certaines calomnies. Alors, difficile à dire si ces rumeurs étaient vraies, fondées ou complètement fantasmagoriques, mais dans tous les cas, cela va progressivement attirer la suspicion et le roi de France, Philippe le Bel, va engager une procédure pour arrêter l'ordre du Temple et le détruire. Alors, bien sûr, il y a plusieurs raisons à ce qui a motivé Philippe le Bel. La première chose était probablement d'ordre financier. Il souhaitait lui-même détruire l'ordre du Temple pour s'accaparer leurs possessions territoriales et leurs richesses. Et puis, il souhaitait également contrecarrer cette organisation qui était devenue trop puissante et qui formait un véritable État dans l'État et qui pouvait potentiellement saper son pouvoir. Donc, Philippe le Bel avait une raison financière, une raison politique et une troisième qui était peut-être religieuse puisque Peut-être que Philippe Lebel a considéré que les accusations qui étaient portées contre l'ordre du Temple étaient véridiques. Et de ce fait, il va lancer sa procédure. Alors je ne suis pas là pour juger les événements, savoir si Philippe Lebel a eu raison ou tort. Il s'agit simplement de contextualiser encore une fois l'histoire du Temple afin de bien aborder ses mystères dans les parties suivantes de cette émission. Donc l'arrestation a lieu en 1307. Tous les Templiers de France sont arrêtés et le roi de France va envoyer des missives à tous les souverains d'Europe afin que ces derniers fassent la même chose dans leur propre pays et qu'ils arrêtent également les Templiers. Alors ce sera le cas dans certains territoires, mais ce ne sera pas le cas dans d'autres territoires, notamment dans le royaume d'Aragon, notamment en Roussillon, notamment en Écosse et en Angleterre, où les rois ne vont pas suivre l'injonction de Philippe le Bel. Le pape va se mêler à cette histoire, va comprendre que la situation lui échappe et va finalement essayer de reprendre les choses en main en procédant lui-même aux interrogatoires de l'ordre du Temple. Donc il va enjoindre les souverains d'Europe à arrêter les Templiers dans leur propre pays, ce que la plupart des souverains vont faire, sauf quelques cas particuliers que nous étudierons par la suite. Et donc la commission pontificale se met en place en 1309 et va tenter d'instituer le procès de l'ordre du Temple. Néanmoins, il y a une véritable lutte de pouvoir entre le pape Clément V et le roi de France Philippe le Bel qui veulent tous les deux diriger un petit peu l'enquête. Donc d'un côté Philippe le Bel veut éradiquer l'ordre du Temple et de l'autre côté le pape Clément V tente plus ou moins de tasser la situation, peut-être même de sauver l'ordre du Temple, mais sans succès. Cela reste mitigé. En 1312, le procès est totalement terminé. Le pape réunit un concile à Vienne, alors Vienne pas en Autriche, hein, Vienne dans le sud de la France, et donc il va statuer que l'ordre du Temple, alors il va statuer, mais contrairement à certaines idées reçues aussi, l'ordre du Temple ne va pas être condamné. L'ordre du Temple ne va pas être déclaré hérétique, il ne va pas être considéré comme une organisation antichrétienne, il va simplement être dissous. L'ordre du Temple va cesser d'exister, mais il ne sera pas condamné. Inversement, certains Templiers à l'état individuel vont être condamnés pour hérésie, vont être condamnés pour les différents crimes qu'on leur reproche, mais à titre individuel, ce n'est pas l'ordre dans sa globalité qui va être condamné. Il va simplement cesser d'exister. Les dignitaires du Temple, et notamment le plus connu d'entre eux, le grand maître de l'époque, Jacques de Molay, quant à lui, finira sur le bûcher en 1314, puisqu'il va revenir sur ses précédents aveux. Il sera déclaré relapse et sera donc condamné au bûcher par le roi de France, pas par le pape, hein, comprenez-le bien, par le roi de France, il sera mis à mort, donc le 18 mars 1314. Voici pour la contextualisation de l'ordre du Temple, et nous allons, grâce à cela, pouvoir aborder les questions qui touchent aux énigmes et aux mystères qui entourent cette organisation. À ce stade, tout d'abord, trois questions peuvent être posées. La première, c'est quelle est la réelle vocation de l'ordre du Temple? Pourquoi a-t-il été créé? Alors là, nous sommes purement dans l'hypothèse. Sur un point de vue historique, les Templiers ont été créés pour protéger les pèlerins en Orient, pour le pèlerinage de Jérusalem et sur les terres des différents états latins d'Orient. Ça, c'est ce que les historiens nous présentent aujourd'hui. Il existe tout un tas d'autres hypothèses. Certains disent que les Templiers ont été missionnés, commandé dans le but d'aller en Terre Sainte et de faire des fouilles dans le temple de Salomon. D'autres nous diront que les Templiers avaient encore tout un tas de raisons possibles de leur création et que cela avait des aspects ésotériques, gnostiques ou tout ce que vous voulez. Mais comprenez bien qu'aucun document textuel ne permet de valider ces hypothèses à ce stade. Donc, pour le moment, je ne m'aventurerai pas à vous proposer ces différentes hypothèses puisque celles-ci ne peuvent pas être étayées. Évidemment, il me semble que la raison qui était de protéger les pèlerins en Terre Sainte me semble insuffisante. Néanmoins, je n'ai aucun élément à vous apporter pour pouvoir amener une autre réflexion sur l'origine du Temple. Tout ce que je pourrais vous donner, ce sera des hypothèses. Nous tenterons quand même d'illustrer un petit peu ce propos dans les parties suivantes. Néanmoins, rappelez-vous encore une fois la différence entre les faits avérés et les choses qui restent de l'ordre de l'hypothèse. La deuxième question qui entoure l'ordre du Temple, et leur richesse. Les Templiers étaient riches, sans aucun doute. Nous allons voir dans quelle mesure ils étaient riches, d'où leur venait leur richesse. Et sur ce point-là, on va pouvoir répondre un petit peu plus facilement à la question, dans cette deuxième partie notamment. Et la troisième question qui entoure l'ordre du Temple, la troisième interrogation plus précisément, c'est étaient-ils des chrétiens? Étaient-ils hérétiques, comme l'affirmait Philippe le Bel? Étaient-ils coupables des crimes dont on les accusait? Et s'ils étaient coupables, dans quelle mesure cela pourrait rapprocher l'ordre du temps de certaines mouvances diagnostiques ou encore une fois remettant en cause certains canons de l'Église de leur époque. C'est ce que nous allons tenter également de répondre dans les parties suivantes de cette émission. Nous allons maintenant parler de l'énigme du trésor matériel et donc des richesses des Templiers. Alors, qu'est-ce que concernent donc ces fameuses richesses, de quoi les Templiers étaient riches, puis ensuite nous parlerons de la piste du trésor, ou plus précisément des trésors, car il existe de nombreuses légendes trésoraires autour de cet ordre. Ensuite, nous parlerons plus concrètement et plus historiquement surtout de l'héritage de l'or qui a hérité des possessions temporelles de l'ordre du Temple, qui est devenu maître des commanderies après la chute de l'ordre, qui a eu à sa disposition le matériel, l'équipement militaire et tous les éléments qui composaient les possessions matérielles, encore une fois, des Templiers. Nous parlerons ensuite de la légende du trésor à travers l'histoire, son évolution, ses mythes modernes, si l'on peut dire, et nous terminerons cette partie avec un retour à la réalité, au rationnel, un petit peu plus cartésien sur le trésor des Templiers. Alors, tout d'abord, les richesses de l'ordre du Temple. Alors, première question, les Templiers étaient-ils riches? Eh bien, oui, ils étaient immensément riches, mais pas forcément comme on l'entend. Nous avons vu tout à l'heure qu'ils disposaient de 9000 possessions territoriales pour environ 1200 commanderies, avec des baillis, des provinces, etc. Donc, les Templiers étaient des propriétaires terriens. Ils avaient un patrimoine foncier colossal. Et la première question, c'est d'où vient ce patrimoine? Eh bien, il vient des dons. Et nous avons de nombreux documents d'époque, des successions, des héritages, etc., qui fait que le Templier était propriétaire de toutes ces possessions. Alors, comment les ont-ils acquis? Eh bien, il y a plusieurs méthodes. La première, eh bien, c'est, si on peut dire, la dotation des membres eux-mêmes. Les chevaliers de l'ordre du temps, les manteaux blancs si vous préférez, étaient en général les personnes issues de la noblesse et donc issues de milieux privilégiés, si l'on peut dire. Donc lorsqu'un de ces jeunes nobles décide d'entrer dans l'ordre du temple, eh bien il était de coutume qu'il fasse don à l'ordre de toutes ses possessions temporelles. Alors si l'on prend le cas de certains nobles comme par exemple Hugues de Champagne, donc Hugues de Champagne qui a rejoint le temple extrêmement tôt, hein, bien sûr. Hugues de Champagne, lorsqu'il est entré dans l'ordre du Temple, il avait déjà fait don préalablement de certains territoires à l'ordre, mais il va léguer son titre à son fils, il va léguer une certaine part de son patrimoine foncier et financier à ses enfants et à son épouse, mais il va néanmoins donner une bonne part de ses possessions territoriales, de ses possessions foncières, à l'ordre du Temple. Et ce sera le cas d'énormément de personnages donc de la noblesse qui vont rejoindre l'ordre du Temple, qui vont adhérer à cet ordre et qui vont faire don d'une partie ou de la totalité de leur patrimoine au Temple. Donc ce dernier va devenir propriétaire terrien de nombreux territoires. Ensuite, ce sont les dotations de personnes influentes ou de la noblesse qui ne vont pas rejoindre l'ordre du Temple mais qui vont devenir des sortes de mécènes. Alors je pense principalement à Foulque d'Anjou, donc Foulque d'Anjou qui était comte du Maine et d'Anjou, et ce dernier plus tard deviendra d'ailleurs roi de Jérusalem, donc personnage influent de Terre Sainte, et ce dernier était relativement proche des Templiers, il a d'ailleurs séjourné dans l'enceinte du Temple lors de son premier voyage en Terre Sainte, et ce personnage va faire don de nombreuses possessions territoriales au Temple qui vont accroître sa richesse. On a également des personnages plus modestes qui vont faire des dons à l'ordre du Temple. Certaines personnes qui voulaient préserver, donc qui voulaient sauver leur âme, qui voulaient le salut de leur âme, décidaient de faire des dotations, des dons à l'Église, comme on peut faire un don aujourd'hui à Lourdes, à Rocamadour ou encore au Mont-Saint-Michel. Eh bien, certaines personnes croyantes voulaient sauver leur âme et ont décidé de faire des dotations à l'ordre du Temple, plutôt que de le faire à une autre organisation monacale, tout simplement. Ensuite, il y a d'autres possibilités. Si une personne voulait faire le pèlerinage en Terre Sainte, il devait disposer de moyens financiers pour son séjour, pour son approvisionnement, pour ses denrées alimentaires, afin de se rendre jusqu'à Jérusalem. Et parfois, il était obligé d'emprunter de l'argent. Et donc, il allait faire un prêt bancaire au temple. Le temple lui accordait une certaine somme d'argent que la personne devrait rembourser par la suite. Alors, évidemment, il y avait un risque, c'était que ces personnes décèdent. Alors, si c'était le cas, eh bien, le temple allait néanmoins se payer sur le patrimoine de cette personne. Alors, on peut trouver cette pratique malhonnête ou tout ce que l'on veut, mais c'était quelque chose de courant à cette époque. Et c'est comme un prêt bancaire, si vous voulez, il y a une garantie pour le prêteur. Alors, cela nous amène à la question des richesses du temple. Quelle était la richesse du temple? Eh bien, la richesse du temple, ce sont ses possessions territoriales, tout simplement. Alors, maintenant, on dit souvent que les Templiers étaient les banquiers de l'Europe. Eh bien, c'est vrai dans une certaine mesure, et c'est faux dans une autre mesure. Tout d'abord, ce ne sont pas les seuls. Il y avait également de nombreuses familles italiennes, notamment à Florence, mais également à Bologne ou à Milan, de personnes qui avaient monté des institutions bancaires et qui servaient déjà à faire des prêts ou autre chose aux grands personnages de l'Europe, ou d'ailleurs aux personnages plus modestes également. Donc les Templiers n'étaient pas le seul à faire la banque, si vous préférez. Alors, comment s'articule le système bancaire des Templiers ? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, certaines personnes qui voulaient partir en croisade allaient demander des prêts au temple pour faire le pèlerinage. Et le temple prenait ses garanties sur les possessions foncières des personnes. Mais il y avait également d'autres individus qui souhaitaient déposer leur argent au temple en cas des dangers de la vie de cette époque. Puisque le temple étant une organisation militaire, elle pouvait accorder une certaine sécurité pour les personnes, et donc les gens parfois déposaient leurs biens financiers et monétaires en or, en argent ou autre, dans les enceintes des commanderies, dans le temple, afin de pouvoir sécuriser leurs biens et pouvoir les garder à disposition s'ils en avaient besoin par la suite. Donc les Templiers se sont retrouvés en tant qu'organisation militaire, un abri sûr pour les possessions temporelles. Autre chose. Les seigneurs, comme par exemple le roi de France, le roi d'Angleterre et autres, ont décidé eux-mêmes d'utiliser le temple comme banque. Pourquoi ? Parce que les Templiers, ayant une certaine expérience, au bout de deux siècles, enfin 150 et 200 ans d'existence par la suite, certains seigneurs de l'Europe ont décidé de faire confiance au temple pour sécuriser leurs biens financiers et éventuellement les conseiller dans leurs différents investissements bancaires, si l'on peut dire. Ce sera notamment le cas de Saint-Louis, donc le Saint-Louis le roi de France, qui va confier la gestion du trésor royal aux Templiers. Ce sera d'ailleurs une des raisons qui fait que Philippe le Bel a voulu récupérer le contrôle de son trésor en détruisant le temple, bien entendu. Alors, pour un autre exemple, le roi d'Angleterre, par exemple Édouard II, avait également fait des Templiers sa banque, si l'on peut dire, puisque tout le trésor du royaume d'Angleterre était sous la gestion de l'église du temple d'Angleterre. Alors, cela nous amène à la question suivante, la lettre de change. Est-ce une invention templière? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est, une lettre d'échange? Eh bien, évidemment, à cette époque, les voyages et les transferts d'argent étaient relativement délicats. Une personne qui était en France, imaginons dans la ville de Bordeaux, et qui voulait se rendre en Terre Sainte, avait bien sûr besoin de ressources financières pour accomplir son pèlerinage, et aurait besoin de ces ressources financières une fois en Orient. Mais le transport de ces biens financiers était délicat, puisqu'il y avait les embûches sur le voyage maritime, les embûches sur le voyage dans l'Europe de l'Est, il y avait les embûches au passage de Constantinople, les embûches en Terre Sainte, etc. Donc il était dangereux d'emmener ses possessions avec soi, ou du moins d'emporter la totalité. Donc, l'individu se rendait à la commanderie du temple, il déposait ses biens matériels au temple, il recevait en échange une lettre de change, et puis, doté de cette lettre, il pourrait, une fois arrivé en Orient, l'emmener dans une autre commanderie templière et récupérer ses biens à l'autre bout de la planète, si l'on peut dire. Donc la lettre de change, c'est ce qui permet en fait de transformer de l'argent en une reconnaissance de biens, si l'on peut dire, et qui permettait donc de retirer ses biens dans différentes commanderies d'Europe. Vu que les Templiers avaient 1200 commanderies dans toute l'Europe et au Proche-Orient, eh bien ce système était éminemment efficace, puisqu'on pouvait déposer son argent, imaginons, en Occitanie, et la récupérer en Île-de-France, ou à Jérusalem, ou à Antioche, ou encore au Royaume d'Aragon. Donc cela permettait encore une fois de sécuriser les biens et d'éviter le transport de richesses, puisque le Templier s'occupait lui-même de transférer ses différentes richesses, et puis d'autant doté d'une armée, cela permettait d'éviter les attaques de brigands ou les différentes péripéties qui pouvaient arriver dans cette époque. Alors, est-ce que les Templiers sont l'inventeur de cette lettre de change? Eh bien, pas uniquement, en réalité, c'est plutôt un phénomène global, puisqu'on voit que les banques italiennes vont procéder exactement aux mêmes méthodes à la même époque. Les Templiers ne sont pas forcément l'inventeur de la lettre de change, mais ils sont des précurseurs dans ce nouveau système, du moins. Alors, cela nous amène donc à la question, de quelle richesse parle-t-on? De quoi les Templiers étaient riches? Était-ce d'or et de bijoux, ou alors de terre? Eh bien, un peu les deux, en réalité. Les Templiers ont récupéré les dotations de patrimoine foncier, et évidemment, ils vont collecter au fur et à mesure du temps certaines richesses qui sont plus palpables, en or, en bijoux, mais surtout en denrées. Puisque les Templiers possèdent des propriétés foncières, ils vont surtout, outre le fait de posséder ces territoires, ils vont en tirer les revenus et les récoltes. Donc comprenez que si on prend l'exemple d'une commanderie qui possède plusieurs métairies avec plusieurs agriculteurs, eh bien tous ces métayers qui travaillent pour les Templiers, c'est-à-dire qui travaillent, ce sont des métayers, donc ils ne sont pas propriétaires de leur terre, ce sont des employés, ils vont travailler la terre et les biens vont revenir aux Templiers. Le métayer, lui, obtient une part ou un salaire, si vous préférez. C'est également le cas donc de toutes ces denrées alimentaires, le blé, l'orge ou tout ce que vous voulez. C'est également le cas des forgerons, c'est également le cas des bourreliers, c'est également le cas de tous les corps de métier qui travaillent dans la commanderie. Les biens reviennent au temple et les employés prennent la part de leur salaire, si vous préférez. Donc les Templiers, par ces possessions foncières, vont obtenir des richesses, qui sont principalement des denrées alimentaires, etc. Beaucoup de denrées sont utilisées pour le temple. Certaines denrées alimentaires sont envoyées en Orient pour soutenir l'effort de guerre, mais également le fourrage des animaux, puisque le temple avait besoin de nombreux de chevaux pour faire la guerre, donc il fallait faire des élevages de chevaux en Occident. Les chevaux étaient envoyés en Orient, mais également le fourrage pour nourrir les petites bestioles. Et donc cela représentait des quantités astronomiques. Évidemment, le temple en tant que banque avait parfois en sa possession des richesses comme de l'or ou des bijoux en échange de denrées alimentaires comme paiement de la part des différents seigneurs. Mais ces richesses d'or et de bijoux étaient elles-mêmes utilisées pour payer d'autres denrées dont le temple manquait. Alors, les Templiers immensément riches, oui, mais pas tellement, puisque la plupart des richesses du temple étaient envoyées pour soutenir l'effort de guerre en Orient. On voit dans certaines situations que lorsqu'un roi de France ou un seigneur voulait partir en croisade, il avait besoin lui-même d'argent pour pouvoir payer ses hommes et pouvoir se doter de tout le fourrage nécessaire et des denrées alimentaires pour l'expédition, mais également de l'équipement. Et il se tournait vers les banques de l'époque, exemple les banques florentines ou milanaises. Mais parfois les banques étaient un peu hésitantes à prêter à ses souverains, puisqu'elles doutaient du remboursement. Donc les seigneurs se retrouvaient dans l'incapacité d'emprunter dans l'optique de faire une croisade. Et donc ces seigneurs vont eux-mêmes se tourner vers le temple afin qu'on leur prête de l'argent. Alors le temple, évidemment, sa mission première est d'assurer la sécurité de Terre Sainte et donc d'encourager l'effort de croisade. Si un seigneur vient devant eux pour emprunter de l'argent, le Templier n'allait pas refuser habituellement. Ils allaient prêter à un seigneur, sachant que ce seigneur n'allait probablement jamais les rembourser. Donc le Temple va prêter de l'argent à perte. Mais le Temple, de son côté, lui-même a besoin de richesses pour pouvoir prêter à ses seigneurs. Et le temple lui-même va se tourner vers les banques italiennes, notamment de Florence et de Milan, afin d'emprunter les sommes nécessaires pour prêter au roi ou au seigneur. Mais le templier, lui, rembourse ses emprunts. Donc, les banques italiennes faisaient confiance à l'ordre du temple pour les remboursements, alors que les seigneurs ne remboursaient pas forcément aux templiers. Donc, l'ordre du temple n'est pas une organisation immensément riche, mais en revanche, c'est une organisation qui assume ses dettes et qui va encourager perpétuellement l'effort de croisade. Donc non, les Templiers ne sont pas immensément riches. En revanche, ils brassent énormément de liquidités, ils brassent énormément de métaux précieux, ils brassent énormément de denrées alimentaires dans le but de soutenir l'effort de la croisade. Mais la richesse du Temple, la véritable richesse des Templiers, ce ne sont pas ses possessions temporelles d'or et de bijoux, ce sont ses possessions foncières et les revenus qu'il en tire, si l'on peut dire. Alors, cela nous amène aux pistes du trésor. Y a-t-il un trésor matériel néanmoins ? Y a-t-il bel et bien une cache avec des coffres remplis d'or, de bijoux et tout un tas de choses ? Cela est plausible dans une certaine mesure. Comprenez que même si l'ordre du temple ne possédait pas un trésor fait de montagnes d'or et d'argent, il est tout à fait possible qu'il y ait eu certaines commanderies qui étaient des dépôts monétaires dans le but de subvenir à tous ces besoins de brassage financier de l'époque. Donc il est possible que dans une certaine mesure, il y ait eu des dépôts importants pour le temple. Loin de l'idée fantasmagorique d'un trésor, mais comprenez, des dépôts particuliers et conséquents dans certaines commanderie. Alors, la piste du trésor, on a tenté de la retrouver, et il y a un petit peu de légendes qui se sont greffées sur cette histoire. Alors, la première des légendes qui est la plus importante est celle de Gérard de Villiers. Alors, Gérard de Villiers, qui c'est? Eh bien, c'était un précepteur de France, c'était un personnage, un notable de l'ordre du Temple, et au moment de l'arrestation, Gérard de Villiers va échapper au plan de Philippe le Bel. Il va fuir avec quelques hommes. Il va fuir de la commanderie de Paris, donc du temple de Paris, et d'après la légende, il aurait fui vers La Rochelle. Il aurait fui vers La Rochelle avec plusieurs mules et plusieurs coffres. Et certains ont hypothétisé que ces coffres recelaient le trésor de la commanderie du temple de Paris. Alors bien sûr, ceci est une légende. Il n'existe aucun élément pour pouvoir l'appuyer. C'est un témoignage d'un frère templier de l'époque qui va raconter que le frère Gérard de Villiers s'était échappé de la commanderie de Paris, donc il y a bel et bien un témoignage. Donc il y a bel et bien, sur un point de vue historique, la possibilité d'une fuite de Gérard de Villiers avec d'autres hommes et des coffres. En revanche, le fait qu'il soit arrivé à La Rochelle, ça fait partie de la légende. Et puis après, la légende va s'amplifier. On raconte que Gérard de Villiers aurait quitté le port de La Rochelle avec 18 galères et que ces 18 galères se seraient rendues dans un lieu inconnu. Certains vont dire l'Écosse, certains vont dire les Amériques, certains vont dire le Portugal, etc., etc. Mais là, nous sommes dans la légende. Une autre légende qui n'en est pas une, puisque là, on parle plus d'un fait historique, c'est le trésor d'Hugues de Perrault. Alors, Hugues de Perrault, autre personnage important de l'ordre du Temple, était le grand visiteur de France, donc un des principaux notables du Temple de cette époque, qui va d'ailleurs être condamné à la réclusion perpétuelle. Eh bien, le trésor d'Hugues de Perrault sera retrouvé et il était constitué de 1189 pièces d'or et de 5010 pièces d'argent, ce qui est un trésor conséquent. On ne parle pas d'une broutille, on parle vraiment d'un trésor d'importance. Ce n'est pas le trésor fantasmagorique du temple, mais c'est bel et bien la richesse complète probablement d'une baillie ou d'une province templière. Et donc ce trésor fut retrouvé et va rejoindre les caisses du roi de France. Alors, autre cas particulier, pour stipuler un petit peu la légende trésorière, c'est le cas particulier donc des Templiers du Roussillon. Alors, le Roussillon a une position très très délicate, c'est qu'il est à cheval entre le royaume d'Aragon, le royaume de Majorque pour être exact de cette époque, et le royaume de France. Et il se trouve que les Templiers de Roussillon, qui dépendent de la commanderie centrale du Mas Déhu, donc du Mas Déhu dans les Pyrénées-Orientales, eh bien, ces Templiers ne seront pas inquiétés par l'arrestation de Philippe le Bel. Ils dépendent du royaume de Majorque, hein, du royaume du Roussillon de cette époque, et donc ne seront pas arrêtés par les autorités françaises. Ils vont être plus ou moins en conflit avec Jacques II d'Aragon de cette époque. Ils ne vont néanmoins pas être arrêtés, ils vont résister dans leur commanderie, ils vont tenir la place, si l'on peut dire, mais néanmoins, il y aura finalement un accord avec le roi d'Aragon, et les Templiers du Roussillon seront tous graciés à la fin des procédures. Quand l'ordre du Temple sera dissous en 1312, tous les Templiers de la commanderie du Mas Déhu et du Roussillon seront graciés, ils ne seront pas condamnés pour hérésie et vont pouvoir continuer à vivre en rejoignant d'autres ordres monastiques divers et variés. Et donc, de ce fait, toutes les possessions temporelles qui se trouvaient dans les commanderies du Mas Déhu ou autres n'ont pas été retrouvées. Alors cela a pu faire germer l'idée évidemment d'un trésor qui aurait pu être caché dans la commanderie du Mas Déhu. Alors on peut aussi stipuler le cas particulier des Templiers en Écosse. Donc les Templiers en Écosse ne seront pas inquiétés dans les premiers temps. Ils seront arrêtés quelque temps, mais vont vite être relâchés, ne seront pas condamnés. Et le roi d'Écosse de cette époque, Robert de Bruce, va prendre les Templiers sous sa protection, d'après la légende. Alors comment expliquer un petit peu ce cas écossais qui est très particulier? Eh bien, à cette époque, nous sommes sur le règne de Édouard II d'Angleterre. Édouard II d'Angleterre n'était pas enthousiaste à l'idée d'arrêter les Templiers, mais il va néanmoins le faire quand même, suivant les invectives papales. Mais à cette époque, Édouard II d'Angleterre contrôle l'Écosse. Il a pris possession du territoire écossais. Vous savez, c'est les époques un petit peu William Wallace, Braveheart, etc. Tout ça. Et donc, de ce fait, les Templiers d'Écosse vont subir sensiblement le même sort que les Templiers d'Angleterre. Mais la révolution écossaise va se passer au même moment. Robert de Bruce, un seigneur d'Écossais, va reprendre le pouvoir et proclamer l'indépendance de l'Écosse et devenir donc un royaume indépendant. Et donc, de ce fait, il va il va avoir un traitement des Templiers qui sera différent. Et donc, il va les gracier complètement. Et après, la légende nous raconte même que les Templiers auraient soutenu Robert de Bruce dans sa quête de l'indépendance écossaise. Bien sûr, ceci est en partie légendaire et ne peut pas être étayé sur un point de vue historique. Alors maintenant, revenons un petit peu au concret de l'héritage du Temple matériel. Qui a hérité des biens de l'ordre du Temple ? Alors, revenons en 1312, il y a donc la bulle papale je n'ai plus le titre en tête, cela me reviendra. Donc, en gros, il y a la dissolution de l'ordre du Temple, et le pape va donc dispatcher les richesses du Temple entre les différents pouvoirs de cette époque. Il va y avoir des luttes. Le roi de France voulait s'accaparer les richesses du Temple, mais le pape Clément V, en dissolvant le Temple et ne le condamnant pas pour hérésie, va transmettre toutes les possessions temporelles du Temple, c'est-à-dire les commanderies, les biens financiers et autres, à l'ordre des hospitaliers. Donc l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean, qui était lui-même implanté en Europe, en Orient, etc. Donc l'ordre des hospitaliers devient le seul et unique héritier de l'ordre du Temple. Néanmoins, cela ne va pas se passer comme ça. Tout d'abord, le roi de France va quand même faire main basse sur tout ce qu'il avait pu récupérer pendant la procédure, c'est-à-dire entre 1307 et 1312, le roi de France va quand même s'accaparer tout ce qu'il a pu dans toutes les commanderies qu'il a pu contrôler. Donc l'ordre des hospitaliers va devoir lutter contre le roi de France, alors lutter pas militairement, hein, mais judiciairement, afin que lui soient restituées les commanderies et les biens des Templiers. Alors ce sera une sorte de statu quo entre les deux, un petit peu, qui sera relativement complexe. On a suspecté d'ailleurs Philippe le Bel d'avoir voulu également s'attaquer à l'ordre de l'hôpital après l'ordre du Temple. Mais il y aura également d'autres problèmes dans les autres régions. Alors, dans les royaumes germaniques, hein, comprenez un petit peu le Saint-Empire, où il y avait une implantation templière relativement faible, eh bien, tous les biens des Templiers seront accordés à l'ordre teutonique, donc l'ordre des chevaliers teutoniques de Sainte-Marie. Donc, un autre ordre de moines chevaliers, mais germain. Donc, ce sont eux qui vont hériter des possessions des commanderies du Temple. La situation sera encore plus complexe dans les royaumes ibériques. Alors, dans le royaume de Valence, le roi Jacques II d'Aragon, Jacques d'Aragon et du royaume de Majorque, va créer un nouvel ordre militaire monastique qui s'appelle l'ordre de Montessa, dans le but de pouvoir collecter l'héritage du temple et de recréer un nouvel ordre. Donc on peut dire à ce stade que l'ordre de Montessa va récupérer les possessions des commanderies, etc., des Templiers, mais on peut même dire que l'ordre de Montessa est la continuité de l'ordre du Temple. C'est le nouvel ordre local qui va reprendre la filiation, ni plus ni moins, avec l'ordre du Temple. Alors pourquoi Jacques II a fait ça ? Eh bien tout d'abord parce que l'ordre du Temple contrôlait énormément de commanderies dans les royaumes ibériques, et que les Templiers représentaient une force d'importance pendant la période de la Reconquista. Donc la Reconquista, je vous rappelle, la lutte entre les chrétiens et les musulmans en Espagne. Donc l'ordre du Temple a été un véritable pouvoir temporel bien implanté. Il était très important, un, de ne pas courroucer ce pouvoir, mais également de pouvoir le faire survivre. D'où la création de l'ordre de Montessa, qui a permis de collecter les richesses du Temple et de transformer l'ordre du Temple en ordre de Montessa, si vous préférez, dans le royaume de Valence. Alors dans le royaume d'Aragon, c'est un petit peu plus compliqué, puisque le roi d'Aragon, donc Jacques II, était en lutte avec le pape, puisque le pape voulait que toutes les possessions reviennent aux hospitaliers, mais le roi Jacques II craignait que le pouvoir des hospitaliers se retourne contre lui et puisse favoriser un autre pouvoir temporel. Donc de ce fait, dans un premier temps, les biens du temple iront aux hospitaliers, mais il va y avoir une transformation dans ce territoire, puisque en fait, les hospitaliers du royaume d'Aragon vont eux-mêmes fusionner avec l'ordre de Montessa, et donc les hospitaliers vont disparaître du royaume ibérique. Alors, au royaume du Portugal, le roi Denis, lui, va avoir une autre idée qui sera relativement simple. Les Templiers ne seront pas arrêtés au Portugal, ils ne seront pas condamnés, et une fois que l'ordre sera dissous, eh bien, tous les Templiers du Portugal vont renaître sous un autre nom, qui est celui de l'ordre du Christ. L'ordre du Christ qui va reprendre exactement la même iconographie que le Temple, avec la croix pâtée sur un drapeau blanc. Alors, l'ordre du Christ et l'ordre de Montessa, donc, sont les véritables successeurs historique de l'ordre du Temple, puisque ce sont des survivances locales, des Templiers, mais sous un autre nom. Alors pour la petite histoire, vous avez peut-être remarqué sur à la Renaissance, avec Christophe Colomb ou encore Vasco de Gama, donc ces grands explorateurs qui vont partir des royaumes ibériques, et qui portent sur leurs étendards, les voiles des bateaux qui portent cette fameuse croix patée templière. Eh bien, en fait, il ne s'agit pas de bateaux qui sont sous la bannière de l'ordre du Temple, mais qui sont respectivement sous les bannières des ordres du Christ, du Portugal, ou de l'ordre de Montessa, ou encore de l'ordre de Calatrava, un autre que je n'ai pas cité, mais qui va également être dans la filiation de l'héritage du Temple. Et donc, ces navigateurs de la Renaissance sont, en fait, financés en partie par ces ordres de moines chevaliers, si l'on peut dire, donc de Montessa, de l'ordre du Christ et de Calatrava. Alors, dans le royaume d'Angleterre, c'est l'ordre des hospitaliers qui va hériter de toutes les richesses du temple, mais comprenez qu'à ce stade, le royaume d'Angleterre s'est séparé du royaume d'Écosse. Donc, en Angleterre, c'est les hospitaliers qui récupèrent les richesses temporelles du temple, mais cela ne va durer qu'un temps, puisque par la suite, en fait, le roi d'Angleterre va se réapproprier, refaire main basse sur les richesses et dissoudre l'ordre des hospitaliers environ 2 siècles plus tard. Donc, finalement, à la fin, les richesses du temple vont revenir à la couronne d'Angleterre. Et puis, dans le royaume d'Écosse, eh bien, nous ne savons absolument pas ce que vont devenir les Templiers écossais, ce qui va évidemment faire naître tout un tas de légendes dont nous parlerons dans la survivance possible des Templiers en dernière partie. Alors, maintenant parlons un petit peu des légendes. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, 20e, 21e siècle, il existe de nombreuses légendes templières qui vont ressurgir et faire vivre ce légendaire médiéval réactualisé à notre époque. Donc, pour en citer quelques-unes, mais sans m'étendre sur le sujet, puisque chacune de ces affaires, en fait, nécessite une vidéo spécifique afin de rentrer vraiment dans le détail et de comprendre tous les tenants et les aboutissants de ces différentes affaires. Alors, la première, l'une des légendes trésoraires du temple, concerne donc l'affaire de Gisors, du château de Gisors en Normandie, et du prieuré de Sion. Alors, cette affaire s'est déroulée dans les années 50 et 60, et évidemment, il y a eu des fouilles dans le secteur, mais aucun trésor templier n'a été retrouvé. Ensuite, on a le mystère de l'île d'Ogashland, puisque certaines légendes racontent que les templiers auraient traversé l'océan Atlantique, ce qui est hautement incohérent pour plusieurs aspects. La première chose est que la flotte templière ne dispose pas de bateaux en nombre suffisant pour pouvoir traverser l'Atlantique. Même en considérant que cela soit possible sur un point de vue technique, ils possèdent la plupart des vaisseaux templiers sont des galères, qui ne sont donc absolument pas adaptées à la navigation atlantique, et les quelques nefs qu'ils possédaient ne sont pas du tout suffisantes, en considérant encore une fois qu'elles aient la capacité technique de le faire. Les différents éléments qui tentent de faire ces rapprochements entre templiers et les Amériques sont souvent par rapport à une iconographie, notamment l'usage de la croix pâtée sur des pierres ou autre chose, mais il faut comprendre que la croix pâtée n'est pas un élément spécifique du temple, on le retrouve dans de nombreuses autres organisations. De plus, le légendaire templier a commencé quasi immédiatement après leur disparition, donc il est tout à fait possible d'avoir affaire à d'autres personnages qui réutilisent un légendaire templier. Mais donc, à ce stade, il est impossible sur un point de vue historique d'affirmer que les Templiers sont allés aux Amériques. Ceci est purement hypothétique. Donc, parmi ces légendes templières aux Amériques, on trouve bien sûr le mystère de l'île d'Oak Island, donc avec soi-disant un puits mystérieux, un puits très profond avec des sortes de systèmes de pièges qui dissimuleraient un trésor. Et évidemment, si on parle d'un trésor, eh bien évidemment, les Templiers ne sont jamais loin. Alors également le cas des arêtes de poissons à Lyon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des souterrains qui ont été retrouvés donc sous la ville de Lyon et qui ont des formes relativement particulières et dont les auteurs ne nous sont pas connus faute de documents. Alors évidemment, si on parle d'un lieu mystérieux et si on parle d'un hypothétique lieu où aurait été caché un trésor, les Templiers ne sont jamais loin. Et c'est exactement la même chose avec l'affaire de Rennes-le-Château, donc le fameux trésor retrouvé par le curé Béranger Saunière, donc à la fin du 19e siècle. Et bien évidemment, si on parle encore une fois d'un trésor, de symboles ésotériques et gnostiques, et bien évidemment, les Templiers ne sont jamais loin. Alors, comme dit préalablement, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces 4 affaires. Chacune sera traitée spécifiquement dans une vidéo qui lui sera dédiée. Néanmoins, ce qui est important de considérer, c'est que les Templiers sont devenus le point Godwin des affaires trésoraires et le point Godwin des affaires dites ésotériques templières, ou gnostiques si vous préférez. Les Templiers, on les utilise dans tous les domaines, à toutes les sauces, et dès que quelque chose se retrouve un petit peu mystérieux au Moyen-Âge, on y accole les Templiers, à tort ou à raison. Et c'est là qu'on va faire un petit retour à la réalité. Là, je vous ai mis 2 photographies. La première qui est donc l'église fortifiée donc des Templiers de Luz-Saint-Sauveur, donc village dans les montagnes des Hautes-Pyrénées. Et juste à côté, les crânes des Templiers qui se trouvent dans l'église de Gavarnie, toujours dans les Hautes-Pyrénées, un petit peu plus au sud de Luy Saint-Sauveur. Donc, rapidement, cette église fortifiée date sensiblement du XIIIe siècle et ces fameux crânes Templiers datent de l'époque médiévale. Mais il y a une chose particulière, c'est que ces deux sites n'ont purement aucun rapport avec les Templiers en réalité. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, l'église que vous voyez là, donc l'église fortifiée de Luy Saint-Sauveur, est en réalité une église qui appartient à l'ordre des Hospitaliers. Et non pas que les Hospitaliers aient hérité ce lieu des Templiers, c'est bel et bien une citadelle, une église fortifiée qui a été construite par les Hospitaliers, donc qui n'a jamais appartenu à l'ordre du Temple. Et de l'autre côté, donc ces crânes Templiers, qui datent probablement de l'époque médiévale, on ne sait absolument pas à qui ils appartenaient, on n'a aucun document d'époque qui parle d'une présence templière dans ce lieu, donc ces crânes peuvent appartenir à absolument n'importe qui, seulement il se trouve qu'une légende locale est commencée à apparaître au XVIIIe siècle, une légende qui raconte que lors de certaines nuits de l'année, eh bien, des voix, des esprits semblaient apparaître dans cette chapelle en prononçant ces phrases « Qui protège le Saint-Sépulcre ?» et une voix répondait « Personne, personne, le temple est détruit. » Et donc, le légendaire templier étant fait son chemin, on a dit « Ceci est des crânes templiers, ceci était une ancienne commanderie templière, alors qu'il n'en est rien dans les faits historiques. » Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, ça nous dit simplement qu'aujourd'hui, quand on voit ces lieux qui peuvent véhiculer leur propre mystère, qui ont leur propre légendaire, eh bien, vu qu'on y trouve des éléments dits mystérieux, eh bien, très naturellement, vu que cela date de l'époque médiévale, on va y associer les Templiers. Si on parle de mystère durant la période antique, on va y accoler la légende de l'Atlantide. Si c'est au Moyen-Âge, on y accole les Templiers. Tout simplement, c'est le point Godwin de l'ésotérisme gnostique et du mystère. Tout simplement. Mais encore une fois, et c'est toute la difficulté avec les Templiers, c'est qu'on navigue perpétuellement entre réalité et fait historique, et de l'autre côté, légendaire et tradition. Donc pour faire le bilan de cette deuxième partie et répondre à l'une des grandes énigmes autour du Temple, il n'y a probablement pas de trésor fantastique des Templiers. Il n'y a probablement pas un immense magot ou une montagne d'or. Il y a probablement des magots, des petits magots qui ont pu être dissimulés dans des commanderies. Certains ont très probablement été retrouvés, sans savoir d'ailleurs qu'ils étaient templiers. Et puis d'autres le seront probablement dans d'autres années. Mais encore une fois, on parle de petits magots, peut-être de centaines de pièces, peut-être même de milliers de pièces. Mais on ne parlera pas d'une montagne d'or. Du moins, celui qui pourra en apporter la preuve sur un point de vue historique est bien malin à lui. Et je serai curieux de lire ses travaux, et avec enthousiasme bien entendu. Alors, cela mis de côté, c'est-à-dire l'idée du trésor matériel avec ses différentes énigmes, cela peut, dans une certaine mesure, sembler résolu. Néanmoins, cela ouvre la porte à l'autre énigme, celle du trésor qui ne serait pas matériel, un trésor spirituel, symbolique, éventuellement de nature ésotérique. Et c'est notamment ce que l'on va aborder dans cette troisième partie. Architecture et archéologie templière, mais j'aurais également dû rajouter symbolisme templier. Alors on va tout d'abord parler des Templiers bâtisseurs, qu'est-ce qu'ils ont construit et surtout pourquoi, quand et comment. Ensuite on va parler des frères de métier, c'est-à-dire cette troisième partie qui compose l'ordre du Temple et celle dont on ne parle jamais. On parle régulièrement des frères manteau blanc, des chevaliers, des sergents manteau noir, mais également il y a tout ce corps qui est majoritaire en réalité et qui forme les frères, ceux qui sont Templiers si l'on peut dire avec un pied dedans et un pied dehors, puisqu'ils ont une vie plus ou moins laïque, mais qui vont exécuter des tâches, des métiers, charpentiers, maçons, architectes, fermiers, et tout un tas d'autres choses qui étaient nécessaires au fonctionnement global du temple. Ensuite, on va parler des fouilles du temple de Salomon, en précisant bien sûr les fouilles hypothétiques dans le temple de Salomon. Et puis nous parlerons du transport hypothétique, toujours bien sûr, de reliques ou de documents, ou éventuellement d'artefacts mystérieux, et nous terminerons avec l'architecture sacrée. Alors cette partie va aborder la notion du trésor au sens symbolique ou spirituel. Mais évidemment, vu que nous n'avons jamais trouvé un trésor, un objet ou un livre qui pourrait matérialiser donc ce trésor mystérieux des Templiers, on va tenter de retrouver une piste de ce dit trésor via les éléments que nous ont laissés les Templiers, à savoir notamment leur architecture. Alors tout d'abord, les Templiers bâtisseurs. Car évidemment, si vous vous doutez bien qu'il y a 1200 commanderies templières et en tout 9000 possessions du Temple, Il est évident que ces dits templiers, ces chevaliers, ont évidemment bâti. Alors, comprenez, ce ne sont pas forcément les manteaux blancs et les manteaux noirs qui ont bâti les monuments. Ce sont principalement les frères de métier, ceux dont on ne parle jamais. Mais néanmoins, il y a quelques difficultés avec ces constructions templières. La plupart, en réalité, ne sont pas forcément deux. Prenons l'exemple. Il y a 1200 commanderies, mais la plupart d'entre elles étaient des dotations, c'est-à-dire des endroits, des lieux qui ont été offerts par un seigneur au temple, soit par héritage, soit par simple dotation, bien entendu. Donc, les corps de ferme, la chapelle ou autre, tout ceci pouvait en partie être déjà construit avant même que les Templiers en prennent possession. Néanmoins, les Templiers vont les réaménager pour arriver à cette architecture classique qui est celui d'une commanderie templière. Et qu'est-ce que cela comprend ? Eh bien, tout d'abord, cela comprend une chapelle. Cette chapelle est destinée aux Templiers uniquement et n'est pas ouverte aux autres. Elle est ouverte uniquement aux manteaux blancs, manteaux noirs et éventuellement, dans certaines mesures, aux frères de métier. Les laïcs, les personnes qui travaillent pour le temple, les métayers ou autres, n'y ont pas accès. Sauf dans des cas particuliers, bien sûr, pour des cérémonies plus globales ou autres, bien sûr. Mais techniquement parlant, les laïcs n'y avaient pas accès. Pourquoi ? Parce que le temple avait sa propre organisation religieuse avec ses frères chapelains. Néanmoins, les laïcs, quant à eux, n'étaient pas censés aller se confesser aux templiers. Ils étaient censés se confesser à leur prêtre du diocèse, mais ne devaient pas sortir de la hiérarchie de l'Église classique. Si les templiers étaient émancipés des pouvoirs temporels et des pouvoirs de l'Église, ce n'était pas le cas des hommes qui travaillaient pour eux. Alors ensuite, une commanderie comprend un logis. Alors logis, comprenez, c'est la maison principale qui comprenait donc cuisine, réfectoire et dortoir. Alors c'était le lieu où dormaient les frères, c'était le lieu où ils mangeaient, mais c'était également les lieux de vie, des communs, si l'on peut dire, où tout le monde pouvait faire ce qu'il avait à faire. Ensuite, on trouvait la salle de chapitre. Alors, salle de chapitre, c'est quoi ? Eh bien, c'est un petit peu comme la salle de la mairie. C'est l'endroit où on prend les décisions, c'est l'endroit où on fait les élections, où on reçoit les doléances, où se gère la vie et l'organisation de la commanderie. Ensuite, il y a les communs. Alors, les communs, ce sont les bâtiments collectifs, hein, ateliers, des granges, des charreteries, des écuries, des étables, des colombiers, des porcheries, des jardins, des pigeonniers, un cimetière. Alors, le cimetière, habituellement, chaque commanderie avait son propre cimetière à côté de la chapelle. Il est important de préciser que les laïcs, c'est-à-dire les gens qui travaillaient pour la commanderie, pouvaient dans une certaine mesure être enterrés dans les cimetières templiers. Et bonus, alors bonus ce sont pour les grandes commanderies, les baillis en général, hein, où il pouvait y avoir un hôpital, donc un hôpital pour soigner les blessés, bien sûr. Certaines personnes en Orient étaient blessées sur le champ de bataille, étaient rapatriées en Occident, pour décharger un petit peu les hôpitaux de l'Orient, bien sûr, et rapatriés en Occident, notamment pour les infirmes. Les gens qui avaient une blessure qui les empêchait de rester combattants étaient rapatriés en Occident. Ils pouvaient donc aller dans l'hôpital d'une commanderie et plus tard servir le temple dans une commanderie sans porter les armes. Et puis, on trouvait parfois aussi des hostelleries. Alors, les hostelleries se retrouvaient principalement sur le lieu de pèlerinage. Alors, bien sûr, en Orient, mais aussi en Occident, notamment au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et autres. Alors, ce sont des sortes d'hôtels où les pèlerins pouvaient s'arrêter pour demander le gîte et le couvert, moyennant finances ou pas, suivant les différentes conditions. Et puis, parfois, pour les grandes baillies ou les provinces, surtout, on trouvait une prison, un lieu où étaient détenus les brigands, les malandrins, les routiers. Les personnes qui avaient enfreint la loi et que le temple se chargeait de confronter à la justice, ou du moins les conservait dans des prisons locales. Donc voilà globalement ce qu'on retrouve dans une architecture templière. Et comprenez que les templiers ont récupéré des bâtiments qui étaient en partie déjà construits, mais vont les réaménager. Par exemple, les templiers vont y rajouter une chapelle quand il n'y en a pas, ils vont éventuellement construire de nouveaux bâtiments, enfin via les frères de métier, et ils vont éventuellement doter ces commanderies d'enceintes fortifiées. Alors ce n'est pas tout le temps le cas, mais là vous avez un exemple avec la commanderie de Coulommiers, la commanderie de Coulommiers, qui donc forme cette enceinte un petit peu fermée, qui est une sorte de fortification, si l'on peut dire, c'est pas une fortification, c'est un grand mur construit, mais cela forme une sorte d'enceinte de vie qui est facilement défendable pour les incursions extérieures. Alors le style architectural du temple est relativement simpliste, voire épuré. En réalité, c'est très très simple, il reprend globalement l'idéal de simplicité de l'architecture cistercienne. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Saint Bernard de Clairvaux, donc moine cistercien le plus connu, personnage influent de l'Église de cette époque, était celui qui a rédigé la règle du temple, mais également celui qui avait fait l'éloge avec Delaude, le texte, l'éloge de la chevalerie chrétienne. Donc, saint Bernard de Clairvaux est un petit peu le père spirituel du temple, si vous voulez. Donc, il y a des proximités entre le fonctionnement des cisterciens, donc des moines cisterciens, mais également celui des moines templiers. Puisque, rappelez-vous, les templiers, ce ne sont pas uniquement des guerriers, ce sont aussi des moines. Et donc, qui dit moine, dit un mode de vie monacal, avec les 8 prières par jour, vêpres, nonnes, complies, etc. Tout ça. Être templier, ce n'est pas une vie laïque, hein, c'est une vie de moine, mais de moine combattant. Mais donc, pour revenir, après cette petite digression sur l'architecture, l'architecture des commanderies est en général plutôt épurée, de style roman et parfois de style gothique dans certains lieux. Alors vous avez également la commanderie de Sainte-Eulalie, donc Sainte-Eulalie dans l'Aveyron, donc qui est une baillie, hein, c'est une commanderie d'importance qui avait plusieurs autres commanderies sous sa domination, et on trouve donc cette magnifique salle du logis avec ses arcs en croisée d'ogives, donc d'une architecture gothique cette fois-ci. Donc une enceinte, cette fois-ci lourdement fortifiée, mais parce que c'est une baillie, c'est une commanderie d'importance, donc qui potentiellement pouvait détenir un trésor et faire office de banque pour la région. Ce qui explique un petit peu sa complexité et son haut niveau de fortification. Alors, parlons un petit peu de ces frères de métier. Les frères de métier, ce sont tous ceux qui travaillent. Alors, certains sont enterrés dans les cimetières de ces dites commanderies, et on va retrouver notamment, pour les différencier, certains attributs sur leur pierre de gisant. Alors là, vous avez au milieu, par exemple, une pierre avec une grande épée. Donc ça, c'est une grande croix. Donc ça, c'est la tombe d'un frère chapelain. Donc d'un frère, une sorte de prêtre au sein du temple. Puis sur le côté, vous avez deux pierres qui étaient sur des tombes, l'une avec des outils, un marteau et une équerre, et l'autre en bas avec des outils agricoles. Donc ce sont bel et bien des templiers, au sens large, mais ce ne sont pas des manteaux blancs ou des manteaux noirs, ce sont des frères de métier. Et ceci représentait, encore une fois, je vous le rappelle, entre 60-70% de l'effectif du temple. Ceux-ci ne seront pas inquiétés lors des arrestations, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas participé au rite templier. Ils n'ont pas subi de rite d'initiation, ils n'ont pas subi les épreuves qui étaient nécessaires pour rejoindre les templiers en tant que sergent ou en tant que chevalier. Donc de ce fait, ceux-là ne seront pas mis dans le même sac que les autres, et par la suite, ils vont continuer à travailler éventuellement pour d'autres organisations, etc. Alors ces frères de métier, on en retrouve dans tous les domaines d'activité, et on en retrouve également en Occident et en Orient. Ce sont eux qui vont édifier les constructions dans les commanderies, ce sont eux qui vont édifier également les forteresses. Car nous n'en avons pas touché mot, mais les commanderies que l'on va trouver principalement en Occident, il y a une autre architecture encore en Orient. Puisqu'en Orient, ou également en Espagne avec la Reconquista, les Templiers vont devenir possesseurs de places fortes. Mais ces places fortes au niveau de leur architecture, la plupart du temps, elles ont été construites avant les Templiers. Et les Templiers en deviennent les gardiens, ceux qui doivent la défendre, l'organiser, mais ils n'en sont pas spécifiquement les architectes. Dans certains cas, ils vont les restaurer, ils vont faire des modifications, etc. Mais l'on ne note pas dans l'architecture des forteresses templières ou des commanderies un symbolisme particulier qui suggérait une connaissance ou même une inclinaison ou un intérêt pour l'ésotérisme ou les sciences occultes, ou même un quelconque rapport avec l'hérésie, par exemple un rapport avec les cathares ou les vaudois de la même époque. On ne retrouve pas ce lien dans leur architecture directe. Ça, c'est important de le préciser. Alors ensuite, on va s'intéresser au cas particulier des fouilles dans le temple de Salomon. Alors, ceci, précisons-le, ne repose pas sur des éléments historiques textuels. Nous ne possédons pas la preuve sur le plan historique que les Templiers aient fait des fouilles dans les vestiges du temple de Salomon. Mais revenons un petit peu en arrière et tentons d'analyser cette histoire avec les différentes données que nous possédons. Tout d'abord, le temple de Salomon. Alors, le temple de Salomon, pour refaire sa chronologie rapidement, hein, sans entrer trop dans le détail, le temple de Salomon, dans la légende, aurait été bâti sensiblement au Xe siècle par le roi Salomon, mais nous n'avons aucune preuve de la réalité historique de cette construction. Ensuite, il y aura une destruction de ce temple par Nabucodonosor, et puis ensuite, il y aura en 586 avant Jésus-Christ, si je ne dis pas de bêtises, puis ensuite, il y aura Elagabal, Zorobabel, donc un nouvel architecte qui va construire le deuxième temple sur les ruines du premier à Jérusalem. Celui-ci non plus, nous ne pouvons pas attester empiriquement son existence, même si elle est déjà beaucoup plus probable que le premier temple. Ce nouveau temple sera lui-même détruit puis restauré par le roi Hérode. Donc le roi Hérode, on est sous la période romaine de la Judée. Donc le roi Hérode va reconstruire ce qu'on pourrait appeler le troisième temple, ou du moins restaurer le second temple de Jérusalem. Et ce troisième temple sera lui-même détruit par l'empereur Titus quelques années plus tard. Si je ne vous dis pas de bêtises, on est en 60-66 de notre ère. Donc quand on parle du temple de Salomon, et que les Templiers auraient fait hypothétiquement des fouilles dedans, on parle en réalité du temple du roi Hérode, et pas forcément du temple de Salomon, puisqu'on ne peut pas affirmer que, en considérant que le temple de Salomon ait existé, on ne peut pas affirmer que sa localisation soit celle du mont du temple de Jérusalem. Voilà, donc on parle bien, comprenez-le, du temple d'Hérode. Ça, c'est important. Donc, qu'est-ce que ça nous amène aussi comme réflexion ? Ce mont du temple, ce temple détruit par Titus, sera réemployé, enfin le site sera réemployé pour l'esplanade des mosquées lors de la conquête arabe, donc où ces derniers vont construire plusieurs mosquées, et notamment l'une d'entre elles qui s'appelle la mosquée Al-Aqsa, au 7e siècle de notre ère. Lorsque les croisés vont prendre Jérusalem en 1099, le roi, Godefroy de Bouillon ne prendra pas le titre de roi, mais il prendra le titre d'avoué du Saint-Sépulcre. Il va établir son gouvernement dans la mosquée Al-Aqsa. Il va en faire son palais, si vous préférez. Pourquoi ? Parce que le monument est grand, il est pratique à l'usage, offre de nombreuses possibilités, et donc il va établir son gouvernement là-bas, dans la mosquée Al-Aqsa. La mosquée Al-Aqsa, comprenez bien, qui n'est pas les ruines du temple de Salomon, mais qui est construite sur l'esplanade où se trouvait autrefois le temple de Salomon, ce qui n'est pas la même chose. Et encore une fois, je vous rappelle aussi, quand je dis temple de Salomon, je parle du temple d'Hérode. Donc la mosquée Al-Aqsa se trouve sensiblement au même endroit que se situait autrefois le temple d'Hérode. Ensuite, il y a le roi Baudouin Ier, qui va toujours garder son gouvernement là-bas, puis le roi Baudouin II, celui qui va nous intéresser. Alors Baudouin II est le roi qui règne sur Jérusalem lorsque les Templiers seront créés, c'est-à-dire entre 1118 et 1120, qui est leur reconnaissance, leur création officielle au concile de Naplouse. Le roi Baudouin II va accorder à ses Templiers, qui, je vous rappelle, dans la légende, étaient neuf, mais historiquement, nous ne pouvons pas connaître leur nombre exact, on peut supposer qu'ils étaient assez peu nombreux. Donc ce roi Baudouin II va octroyer une aile de son palais, donc comprenez certaines pièces de la mosquée Al-Aqsa, pour l'usage des Templiers. Puis par la suite, le roi Baudouin II lui-même va s'installer dans la tour de David. Pourquoi ? Parce que le lieu est plus facilement défendable, plus pratique pour y établir son pouvoir temporel. Il va rétrocéder la mosquée Al-Aqsa. Il va rétrocéder la mosquée Al-Aqsa aux Templiers. Donc les Templiers, à partir de ce stade, leur véritable nom était d'ailleurs les pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Jérusalem. En réalité, ils prennent ce nom parce qu'ils habitent dans leur première commanderie, leur première base, si l'on veut dire leur premier temple, qui est la mosquée Al-Aqsa, et qui est sur les vestiges de ce qu'était le temple d'Hérode et légendairement celui de Salomon. C'est d'ailleurs pour cela que les chevaliers de l'ordre du temple s'appellent les Templiers, tout simplement. Alors, la raison qui pousse Baudouin II à leur rétrocéder ce palais, on fait beaucoup parler. Alors, sur le point de vue historique de prime abord, la raison est pourtant relativement simple. En réalité, Baudouin II lui-même a changé de lieu, tout simplement pour des raisons pragmatiques de protection, de fortification, en allant à la tour de David. Étant donné que ces chevaliers de l'ordre du temple nouvellement créé avaient une vocation qui pouvait intéresser le pouvoir temporel de l'époque, il était constitué de personnages de la chevalerie et de la noblesse, il n'était pas incohérent de leur proposer une position avantageuse. Étant donné qu'il résidait déjà dans la mosquée Al-Aqsa avant le départ de Baudouin II, eh bien, au moment de leur départ, Baudouin II leur a tout naturellement rétrocédé tout le local afin qu'ils puissent s'organiser, qu'ils puissent stocker les futurs chevaux dont ils auraient besoin, et ce qui sera en effet bien pratique par la suite. Donc le roi l'offre aux chevaliers du temple. Les Templiers y établissent leur maison mère et réorganisent les lieux à leur convenance. Alors c'est ça qui a fait beaucoup parler. Les chroniqueurs de l'époque, et surtout d'un siècle après, vont nous parler que les Templiers ont fait des modifications, ils ont reconstruit, ils ont aménagé les lieux. Et de là, il n'y a qu'un pas pour imaginer qu'ils aient pu faire des fouilles de nature archéologique dans ce lieu. Sur le point de vue historique, on ne peut pas l'affirmer. Néanmoins, cela est possible. Nous sommes dans l'hypothèse. Nous allons tenter de plonger un petit peu au cœur du sujet. en parlant tout d'abord de l'organisation de cette première commanderie, donc du temple. Alors le bâtiment est composé de quoi ? Comprenez, il est composé de quoi après la réorganisation des Templiers ? Il comprend tout d'abord une écurie souterraine pouvant abriter près de 2000 chevaux. Vous comprenez, c'est un nombre colossal. Mais le temple avait besoin de quantités colossales de chevaux. Donc les écuries sont gigantesques et font tous les souterrains du palais. Ensuite, il y a une église dédiée à la Vierge sous le nom de Sainte Marie des Latins. Alors Sainte Marie des Latins, je vous rappelle que Sainte Marie était la sainte patronne des Templiers, et elle prend le nom de Sainte Marie des Latins pour la dissocier des deux autres églises de Sainte Marie qui se trouvaient dans la ville. Ensuite, il y a le réfectoire, ou le palais, une salle voûtée, sous colonne et richement décorée de trophées d'armes. Comprenez, les Templiers vont complètement réaménager le lieu, hein, ils vont complètement le rebâtir sur certains aspects. Ensuite, il y a des dortoirs, un dortoir pour les chevaliers et un autre pour les sergents. Ensuite, il y a la salle de chapitre, là où sont prises les décisions, une infirmerie, des appartements pour les dignitaires, une maréchaussée, ou une salle où étaient stockées donc les armes, les cottes de mailles, les harnais et les autres équipements, une forge et une boulangerie, pour pouvoir gérer toute l'alimentation du lieu, les entrepôts, les cuisines, des celliers, une boulangerie, je l'avais déjà dit, et des porcheries, des poulaillers, et des jardins et des cultures à proximité, ainsi que des silos à blé et des citernes. Donc on voit, dans un premier temps, que la réorganisation du temple s'explique assez naturellement, puisque le lieu, en effet, va être tout à fait adapté pour la vie de cette communauté de moines guerriers, pour pouvoir à la fois répondre à leurs obligations monastiques, mais également à leurs obligations guerrières. Donc, à ce stade, rien ne permet d'envisager de fouilles archéologiques. Cependant, cela nous amène quand même à certaines interrogations. Certains vont dire ce n'est pas un hasard si Baudouin II leur a octroyé ce lieu. Je ne serai pas forcément partisan de ce type d'hypothèse, je trouve que la raison de la rétrocession est plutôt logique en réalité. Les Templiers avaient un projet. Ce projet, ils en ont fait part aux autorités. Ce projet a plu aux autorités et les autorités l'ont encouragé. Pourquoi on peut penser ça ? Eh bien tout simplement parce que Baudouin II a envoyé plusieurs missives à Saint-Bernard de Clairvaux afin que ce dernier fasse la promotion des Templiers, afin que ce dernier obtienne leur reconnaissance papale. Donc on voit que Baudouin II, même s'il n'est pas Templier puisqu'il est roi de Jérusalem, encourage lourdement les chevaliers du temple, nouvellement créés, afin qu'ils puissent devenir une puissance temporelle. Donc, à ce stade, c'est cohérent, il leur offre les moyens de leur ambition, en leur rétrocédant un bâtiment d'importance où ils vont pouvoir s'organiser. Et en effet, cela sera pratique, puisque seulement une dizaine d'années plus tard, les Templiers qui étaient juste une poignée d'hommes, hein, neuf dans la légende, eh bien, ils vont tout d'un coup démultiplier massivement leurs effectifs après la reconnaissance papale, avec de nombreux seigneurs qui vont leur faire des dotations, de nombreuses recrues de nombreux hommes vont vouloir rejoindre les rangs des Templiers, et donc une dizaine d'années après leur création, eh bien, le temple avait bien besoin de ce type de lieu pour en faire sa maison mère, si l'on peut dire. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un mystère extrême pour le lieu des Templiers. Rappelons encore une fois que s'ils portent le nom de Templiers, c'est à cause du lieu et ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas les Templiers qui ont... Les Templiers n'ont pas pris ce nom avant de posséder ce lieu, hein. Ça c'est important. Donc je pense que cela est totalement logique sur un point de vue historique. Cependant, cela n'enlève pas la possibilité que les Templiers ont tout à fait pu faire des fouilles dans le lieu. Seulement, nous n'avons encore une fois pas d'éléments qui permettent ni de le prouver, ni de l'attester. Et donc, on est purement dans l'hypothèse. Livrons-nous quand même un petit peu à ces hypothèses. Si les Templiers ont fait des fouilles dans ce lieu, qu'est-ce qu'ils ont potentiellement pu y retrouver ? Alors, certains vont vous dire qu'ils ont retrouvé l'Arche d'Alliance, d'autres vont vous dire qu'ils ont trouvé le Saint Graal. Bon, à ce stade, on n'a jamais retrouvé ni le Saint Graal, ni l'Arche d'Alliance, donc on est dans l'hypothèse. Autre chose type trésor rare, les Templiers auraient pu trouver le trésor de Salomon. Cela semble peu cohérent par rapport aux explications de la deuxième partie, puisque le temple ne disposait pas d'une fortune type montagne d'or, mais il était riche de ses possessions foncières. Donc, on écarte un petit peu l'hypothèse du trésor de Salomon, qui lui-même est plus ou moins mythique. Ensuite, on va s'intéresser à l'hypothèse de documents, éventuellement d'évangiles, de textes qui auraient pu appartenir à l'époque paléochrétienne ou éventuellement pseudépigraphe de l'époque judaïque. Eh bien, là, c'est tout à fait possible. On n'a pas d'éléments pour l'affirmer, mais cela est envisageable. Voilà, on reste avec nos interrogations, sans pouvoir affirmer rien du tout. Un auteur des années 70-80, qui s'appelait Louis Charpentier, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les mystères du Temple » ou « Les mystères des Templiers », va nous proposer des théories un petit peu romantiques, si l'on peut dire, en nous disant que les Templiers avaient trouvé un trésor lors de leurs 10 premières années, en gros la période où ils sont extrêmement peu nombreux et qu'ils ne peuvent absolument pas assurer leur mission en Terre Sainte, où la légende nous dit qu'ils étaient 9, et bien pendant cette période de 10 ans, ils auraient fait une découverte dans les ruines du temple de Salomon, ils auraient rapporté cette découverte en Occident, je vous rappelle en 1127 quand Hugues de Pin fait le voyage en Occident pour faire la promotion de son ordre, et obtenir la reconnaissance papale. Donc Louis Charpentier nous dit que un trésor, des documents ou autres, aurait été retrouvé pendant entre 1120 et 1127, et que c'est cette découverte qui aurait permis d'obtenir la reconnaissance papale, et que les Templiers auraient dissimulé habilement leur trésor. Alors après, tout le monde y va de sa théorie, hein. Certains disent que, comme Louis Charpentier, que le trésor aurait été dissimulé dans la forêt d'Orient. Alors pourquoi la forêt d'Orient ? Parce que c'est le lieu de naissance du temple. Je vous rappelle que, certes, le temple est né en Orient, mais sa création, au sens idéologique, est très probablement née dans la région de Troyes. Donc la forêt d'Orient se trouve à proximité de la ville de Troyes et de la ville de Pin, mais également de là où résidait Saint-Bernard de Clairvaux. Donc un lieu qui serait tout à fait intéressant, puisque lié historiquement au temple. Notons que la forêt d'Orient possède en son sein une forêt intérieure qui prend le nom d'ailleurs très ironiquement de forêt du temple, mais bon, c'est toujours pareil, vu que les Templiers y résidaient en partie, il est possible que ce lieu ait été nommé a posteriori forêt du temple en référence aux Templiers. Alors on trouve également, je vous l'avais cité préalablement, l'énigme des arêtes de poisson à Lyon. On ne sait pas exactement quand ces souterrains ont été construits. Certains hypothétisent que les Templiers auraient utilisé ces endroits et qu'ils auraient éventuellement pu y dissimuler leur trésor. D'autres, un peu plus rationnels, si l'on peut dire, disent que ce trésor aurait été dissimulé dans la commanderie du Temple de Paris. Et puis, on va trouver d'autres théories, par exemple, comme celle du Mas Déhu, en Languedoc-Roussillon, donc pour être exact, en Pyrénées-Orientales, cette fameuse commanderie qui a résisté quelque temps aux arrestations et qui sera, où les Templiers ne seront pas condamnés pour hérésie. Donc certains y ont vu une hypothétique cache des Templiers. Donc à ce stade, impossible de vous dire avec certitude si des fouilles ont été faites, impossible de vous dire si des choses ont été trouvées, et si ces choses ont été trouvées, il est impossible de vous dire à quel endroit elles ont été emmenées. Nous sommes dans l'hypothèse sur les trois niveaux, ce qui laisse évidemment toutes les possibilités. Mais à ce stade, je ne suis pas en capacité, sur un point de vue cohérent, de vous apporter une réponse. Alors, néanmoins, on va tenter de s'intéresser un petit peu à l'architecture sacrée. On a vu tout à l'heure que les Templiers ont souvent réinvesti des lieux qui étaient déjà construits. Et puis, on voit que les modifications faites par le temple répondent en grande partie à l'art cistercien, avec une architecture romane ou gothique, suivant les différentes époques, mais en soi, rien de bien mystérieux dans cette affaire. En revanche, il existe une petite curiosité. L'architecture templière, dans ces chapelles. Régulièrement, les Templiers, dans leur commanderie, vont édifier ou restaurer des chapelles et ils vont leur donner une forme de rotonde octogonale. Alors, octogonale à 8 côtés, si vous voulez. Alors, là, je vous ai mis 3 exemples. La rotonde del Torres del Rio, en Espagne, la chapelle templière de Laon et la chapelle templière de Metz. En réalité, il y a une bonne vingtaine d'exemples en Europe où on voit des constructions qui sont prétendument du temple, mais avec quelques nuances. Hein. Il est toujours parfois délicat d'affirmer que ce sont bien les Templiers qui sont les auteurs de ces monuments, et je reprends l'exemple de l'église fortifiée de Lucin Sauveur, qui n'était pas du fait des Templiers, mais qui était du fait des Hospitaliers. Alors, dans tous les cas, en grande partie, cette architecture en octogone, donc de rotonde octogonale, est souvent prêtée aux Templiers. Et cela peut nous amener à une certaine interrogation symbolique. Eh bien, en réalité, pas tellement. Pourquoi ? Eh bien, l'architecture que vous voyez là est une architecture qui existe bien avant les Templiers, qui existe depuis l'époque byzantine. Puisque, à l'origine, c'est une architecture byzantine, qui sera reprise dans tout l'Empire byzantin, mais qui sera également reprise dans l'art pré-roman ou paléo-chrétien, notamment à Aix-la-Chapelle, du temps de Charlemagne. Donc on voit que cette architecture a existé bien avant le temple. Ensuite, les Arabes eux-mêmes vont reprendre ce type d'architecture, et notamment ils vont construire le dôme du rocher, en reprenant bien sûr les compétences techniques des Byzantins préalablement, et ce dôme du rocher va être, lors de la période des croisades, donc les croisés ayant conquis Jérusalem, ils vont transformer le dôme du rocher en une église, une basilique si l'on peut dire, qui s'appelle le Temple du Seigneur, donc qui est l'église principale du coup de Jérusalem de cette époque. Or, c'est une architecture en octogone pour cet édifice, et ceci sera imité, sera une mode typique des 12e et 13e siècles. Donc il n'est pas irrationnel de considérer que les Templiers ont tout simplement été dans une démarche d'imitation du Dôme du Rocher et donc du Temple du Seigneur à cette époque, reprenant ces éléments clés de l'architecture byzantine et les réemployant dans leur commanderie. Car rappelons-nous que les Templiers, leur base, leur cœur, était l'Orient. Et donc, de ce fait, l'Occident, par jeu de répercussion ou d'acculturation, si l'on peut dire, va reprendre ce type d'architecture en symbolisant leur attachement à l'idéal de croisade et à la quête templière d'origine qui était la préservation des lieux saints. Donc, au niveau du symbolisme templier sur l'architecture, il est très difficile d'en tirer des conclusions définitives et il est assez hasardeux d'y voir un symbolisme ésotérique ou gnostique. Faisons le bilan de cette troisième partie. À ce stade, les Templiers n'ont pas de trésors matériels conséquents. Ils sont riches, certes, de leur propriété foncière, mais néanmoins, pas de montagne d'or en vue. Quelques magots disséminés, mais rien de plus à ce stade. Du moins, à ce jour, aucun trésor templier n'a été retrouvé d'importance et aucun texte d'époque ne permet de considérer cette hypothèse, qui reste plausible, qui reste une hypothèse, mais à ce stade, non vérifiée. Maintenant, l'énigme du trésor spirituel, gnostique ou d'un artefact mystérieux. Eh bien là aussi, nous sommes dans une hypothèse des plus absolues, une hypothèse triple. 1. Ont-ils fait des fouilles ? 2. Ont-ils trouvé quelque chose ? 3. L'ont-ils rapporté quelque part ? Ce qui laisse, encore une fois, beaucoup de hasard dans cette histoire. Néanmoins, le mystère des Templiers ne s'arrête pas là. Pas de trésor matériel, peut-être pas de trésor archéologique, mais un secret. Car oui, s'il y a bien une chose que les Templiers avaient, c'était un secret. Et c'est ce que nous allons tenter d'aborder dans cette quatrième partie, notamment en tentant de répondre à la question « Quelles étaient les croyances des Templiers ? Étaient-ils chrétiens ? Étaient-ils gnostiques ? Étaient-ils hérétiques ? Et surtout, quelle était cette fameuse idole que de nos jours l'on nomme le Baphomet ?» Alors, quatrième partie, les croyances des Templiers et l'énigme du Baphomet. Tout d'abord, on va parler des Templiers eux-mêmes. Étaient-ils chrétiens ? On va voir un petit peu quels étaient les chefs d'accusation qui leur seront attentés lors de leur procès et voir un petit peu ce que les différents témoins ont validé dans les accusations ou n'ont pas validé inversement. Ensuite, on va analyser les rites templiers, ou du moins ce que l'on sait de ces rites templiers, le rituel de réception ou d'initiation pour les fameux manteaux blancs, mais également pour les sergents dans certaines mesures. Ensuite, on parlera des Templiers, encore une fois, sont-ils gnostiques, ou du moins dans leur rite et dans leur chef d'accusation qu'ils ont validé dans certaines mesures, peut-on penser qu'ils aient une croyance gnostique ou certains autres éléments de leur symbolique ou autre, peut-il nous faire penser qu'il y a une symbolique dite gnostique, ou du moins ésotérique, dans l'ordre du Temple ? On continuera avec l'idole, donc le fameux Baphomet, un symbole étrange que nous allons disséquer un petit peu, et nous terminerons cette partie avec le mystère de l'ordre secret. Y a-t-il un ordre au sein de l'ordre du Temple ? Alors, commençons avec les Templiers, étaient-ils chrétiens ? Alors, tout d'abord, au niveau des accusations, il y a eu plusieurs chefs d'accusation portés contre les Templiers. On les a accusés d'hérésie, on les a accusés de reniement du Christ, de crachat, de baisers obscènes, de pratique de l'homosexualité, d'idolâtrie, de pratiquer des rites interdits comme l'absolution et l'eucharistie hors des canons habituels de l'Église et tout un tas d'autres choses variables. Alors, sur les procès qui ont lieu en France, l'accusation à Paris, donc les premiers témoignages, en 1307, de 138 témoins, donc 138 interrogatoires qui ont été menés et dont nous possédons les archives. Alors, sur ces 138 personnes, 111 ont admis ou ont affirmé avoir renié le Christ lors de leur cérémonie d'initiation. Comprenez bien que la plupart de ces éléments d'accusation concernait principalement une cérémonie, la cérémonie de réception d'un nouvel adepte au sein de l'ordre du Temple. Donc le moment où il allait recevoir le fameux manteau blanc des Templiers. Alors, difficile de savoir si les sergents avaient exactement le même rite. Ce n'est pas forcément le sujet central de notre interrogation de ce soir. Là, actuellement, sur 138 témoins, 111 vont affirmer avoir pratiqué le reniement du Christ lors de leur rituel de réception. Ensuite, 121, donc un petit peu plus, vont affirmer avoir craché sur le Christ ou sur le crucifix, jeté au sol, lors de cette cérémonie d'initiation. Ensuite, 109 vont avouer ou admettre avoir eu des baisers obscènes, alors des baisers obscènes sur la bouche ou en bas de la colonne vertébrale, avec leur maître ou avec leur supérieur, lors de ces cérémonies de réception. Ensuite, 80, alors ça c'est tout à fait édifiant d'ailleurs sur ces témoignages-là, 99 témoins vont admettre, avouer, qu'on leur a conseillé la pratique de l'homosexualité au sein de l'ordre du temple. Alors, attention, il y a quelques spécificités. Ces 99 témoins qui admettent avoir reçu le conseil de pratiquer l'homosexualité ont dit que ces conseils avaient eu lieu lors de leur cérémonie de réception. Néanmoins, les 99 témoins qui ont admis qu'on leur a conseillé cette pratique de l'homosexualité ont démenti l'avoir pratiquée eux-mêmes. Et ça, c'est important. Ensuite, la pratique de l'idolâtrie, le fameux Baphomet, mais vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça, seuls 8 témoins sur les 38 affirment avoir vu, touché ou été en présence de cette idole. Ce qui veut dire que 130 ne l'ont pas reconnu. 130 ont dit qu'ils n'ont jamais entendu parler de cette idole, qu'ils ne l'ont jamais vue. Comprenez bien que dans ces 130 témoins qui ne reconnaissent pas l'idole, ces 130 témoins disent qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Sur les 8 qui parlent de l'idole, ça veut dire que sur ces témoignages, 5 d'entre eux affirment avoir vu l'idole et seuls 3 affirment qu'ils en ont entendu parler seulement. Donc comprenez que réellement, il ne reste que 5 témoignages concernant l'idole dite baphométique. Ensuite, quant à l'absolution et l'eucharistie, donc les rites qu'ils n'avaient pas à célébrer, seul un témoignage sera présent. Ce qui permet de ne pas le voir comme une généralité, vous l'aurez bien compris, contrairement aux 4 premiers chefs d'accusation, les 2 derniers sont relativement modestes. Alors néanmoins, il faut mettre un petit bémol sur ces témoignages, il faut comprendre que ces aveux ont été arrachés sous la torture, et évidemment, sous la torture, on raconte un petit peu n'importe quoi. Donc il est tout à fait possible, encore une fois, que les Templiers aient avoué ces crimes uniquement du fait de la torture, et de ce fait, ce qui rendrait caduque éventuellement ces témoignages. Cependant, il semble qu'il y ait eu quelques témoignages volontaires, hors de toute torture, ce qui permet, encore une fois, de rester avec nos incertitudes sur la question. Donc, la question que l'on peut se poser, les Templiers étaient-ils chrétiens? Eh bien, si l'on observe ces accusations et si l'on considère la valeur des aveux, il est évident que non. Si on considère que 111 Templiers sur 138 ont renié le Christ, ont craché sur la croix, ont eu des baisers obscènes, ont pratiqué des actes interdits, etc., je ne m'attarde pas sur l'idole et l'absolution de l'Eucharistie pour le moment, on peut considérer à ce stade qu'au moins 110 ou 120 des Templiers n'étaient pas chrétiens. Cependant, si l'on admet que ces témoignages ont été acquis sous la torture, on peut aussi considérer que les Templiers ont combattu pour les croisades, ils ont été des combattants féroces pour le maintien des lieux saints en Orient, ils étaient sous le patronage de la Sainte Vierge, ils répondaient uniquement aux ordres du pape, et surtout avaient un mode de vie monastique. De plus, la règle du temple, les 130 et quelques chapitres de la règle du temple, stipulent bien des modes de vie parfaitement chrétiens. Donc, ce que l'on peut dire à ce stade, c'est que la règle des Templiers, la règle de vie, était, elle, totalement chrétienne. Leurs actes sur le champ de bataille en Orient étaient, quant à eux, également typiquement chrétiens, du moins dans les canons de l'époque. Il n'y a que les accusations lors du procès qui permettent d'en douter. Mais encore une fois, ceux-ci peuvent avoir été obtenus par la torture. Donc, à ce stade, il ne fait pour moi aucun doute que les Templiers étaient, dans leur immense globalité, des chrétiens. Des chrétiens qui ont pu pratiquer un rituel que nous allons voir juste après. Mais néanmoins, ce rituel n'est pas forcément incompatible avec la notion de christianisme, du moins il ne l'était pas dans leur tête à eux. Pour eux, cela n'était pas incompatible, ce qui ne veut pas dire que pour la chrétienté au sens global, ce ne l'était pas. Alors analysons les rites des Templiers. Alors que sait-on de Cérith ? Eh bien, nous savons tout d'abord que lorsque un jeune adepte voulait rejoindre l'ordre du Temple, il fallait un petit temps préparatoire, c'est-à-dire qu'on ne devenait pas templier du jour au lendemain, il ne s'agissait pas de taper à la porte et d'être initié le soir même, il fallait procéder en général à une petite année de service où on s'initiait un petit peu aux pratiques, aux coutumes et aux règles de vie du Temple, afin de voir si l'engagement était fidèle, sincère, et que la personne avait les qualités morales et les aptitudes physiques pour pouvoir intégrer l'ordre du Temple. Donc, comment ça se passe en général, la personne qui voulait rentrer dans le temple va rejoindre l'ordre en tant que frère de métier ou en tant que sergent si c'est pour des aptitudes militaires, et il va accomplir un certain temps de service en tant que templier honoraire, c'est-à-dire il est templier sans lettre, il a un pied dedans mais un pied dans la vie laïque encore, c'est-à-dire qu'au bout de cette année de service, si au bout d'un an il souhaite quitter le temple, il retourne à la vie laïque, et si inversement il souhaite poursuivre, il va intégrer l'ordre des manteaux blancs, des chevaliers, donc du temple, après une initiation, ou plus précisément une réception symbolique. Attention, seules les personnes issues de la noblesse pouvaient prétendre au manteau blanc. Donc de ce fait, ce n'était pas un rituel qui était offert à tous. Il est néanmoins possible que certains frères sergents aient pu également pratiquer ce rite de réception, mais sans plus d'informations, cela restera très abstrait. Alors, en quoi consiste ce rite, ou du moins, qu'est-ce que nous savons de ce rituel ? Eh bien, le jeune frère qui voulait intégrer donc l'ordre des chevaliers du temple va devoir passer une sorte de retraite. Il va être mis à l'écart, une sorte de chambre préparatoire, si l'on peut dire, où il va pouvoir méditer un petit peu et se recueillir dans la prière, réciter ses serments, etc. Tout ça, afin de se préparer. Ensuite, il sera reçu dans une pièce, dans la salle du chapitre. Il sera conduit par un frère plus âgé que lui, un frère, un introducteur, si on peut dire, qui va le conduire, en général son parrain, peut-on dire, qui va le conduire jusqu'à la salle de chapitre. De là, le dignitaire, le chef de la commanderie ou un dignitaire de l'ordre, s'il est présent, va le recevoir. Il y aura d'autres frères autour, ceux qui sont déjà manteau blanc, pour l'accompagner dans sa cérémonie. Peut-être pas tous, peut-être une certaine partie, nous ne savons pas exactement. Il n'y a pas vraiment de texte qui explique spécifiquement la réception templière. Donc, de ce fait, nous nous concentrons principalement sur les dires qui ont été connus via les témoignages lors du procès. Donc, apparemment, le jeune adepte qui voulait rejoindre l'ordre devait se livrer à certains serments, il devait prononcer ses vœux, si l'on peut dire, une sorte d'adoubement chevaleresque, hein, d'une certaine façon. Et c'est là que nous allons avoir des rites particuliers, notamment celui du reniement du Christ, mais également du crachat sur la croix. Alors pour être exact, comment cela se passait ? D'après les dires, la personne était récitait son serment et surtout faisait jurer d'être fidèle à l'ordre et de toujours obéir à l'ordre. Or, de là, la personne qui s'occupait de sa réception mettait éventuellement un crucifix à terre et demandait au nouveau reçu de cracher sur la croix. Évidemment, le nouveau reçu refuse. Mais là, le maître lui demande, l'oblige, l'insiste, l'ordre t'ordonne de cracher sur la croix. Et le jeune adepte crache sur la croix. Dans les témoignages, il nous dit souvent « j'ai craché à côté », etc. Tout ça. Et ensuite, le frère introducteur lui donne une gifle en lui disant « va te confesser ». Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce rite, dont on retrouve beaucoup de témoignages ? Cela nous montre, en fait, qu'on cherche apparemment à tester la fidélité du serment du nouvel apprenti, tester sa fidélité, tester sa rigueur, tester son obéissance et sa soumission à l'ordre, afin de vérifier qu'il sera un bon templier, tout simplement. Et c'est une épreuve qui est inadmissible. Cracher sur le Christ, pour un chrétien, c'est impossible. Mais néanmoins, ce jeune adepte montre par cet acte qu'il est capable de suivre les règles de l'ordre et surtout de suivre de ce fait tous les commandements militaires qui auront lieu. En revanche, on lui invite après à aller se confesser parce que l'acte qu'il a accompli est évidemment très grave et il faut aller s'en repentir. Cela reprend un petit peu l'idée du crachat, du reniement de Saint-Pierre lorsque Jésus est arrêté où Saint-Pierre renie trois fois le Christ. Donc les Templiers ont très probablement pratiquer un rite qui, par nature, est antichrétien, mais néanmoins qui se met dans une sorte de bizutage militaire, afin de vérifier ou de malmener un petit peu les nouvelles recrues en les obligeant à des actes sacrilèges. Donc, en effet, ce rituel peut être considéré comme hérétique, même s'il procède, à mon sens, beaucoup plus de l'initiation militaire et qui doit, à mon avis, se retrouver dans de nombreux autres corps d'armée de l'époque ou de d'autres époques, pas forcément, en l'occurrence, avec les symboles christiques. Cela peut varier. Alors, les Templiers étaient-ils gnostiques ? Est-ce que ces rituels avaient une connotation ésotérique ou autre ? Eh bien, à ce stade, de ce que nous en connaissons, pas vraiment. Le fait de pratiquer des rites militaires avec des sacrilèges, des blasphèmes et le but de s'en repentir par la suite n'a pas forcément un aspect gnostique ou ésotérique. Cela répond plus à une connotation de bizutage. Alors, on voit dans des écrits plus modernes, là je pense notamment à l'illustration où vous voyez le Baphomet, donc le sort de diable avec ses ailes, qui se place au-dessus des Templiers pour une cérémonie rituelle. Ça, c'est une image donc de Léo Taxil, qui est un canular littéraire qui a été fait au début du XXe siècle, dans le but de montrer que les Templiers, ou les francs-maçons, qu'ils le plaçaient comme leurs héritiers, auraient été des satanistes diaboliques faisant des rituels de sacrifice et autres. Alors, outre cet aspect caricatural, ce qui est intéressant, c'est d'analyser l'idée que les Templiers auraient pu être gnostiques. Et il faudra revenir au principe de leur filiation avec la franc-maçonnerie, dont nous parlerons en dernière partie. Alors, pour l'instant, nous allons juste nous arrêter à quelques indices qui permettraient de penser ou d'hypothétiser que les Templiers ont pu avoir un aspect gnostique. L'un de ces premiers indices est un sceau, un contre-sceau pour être exact, qui s'appelle le Secretum Templi, donc qui veut dire les secrets du temple ou le secret gardé du temple, avec un symbole étrange au centre qui est un abraxas. Alors, un abraxas, c'est quoi ? C'est une sorte de figure démiurgique qui appartient à l'Antiquité et qui était utilisé dans les courants gnostiques chrétiens des premiers siècles, notamment chez les Basilidiens et les Valentiniens. Je vous ai mis un autre exemple sur le côté d'un abraxas. Alors, c'est une sorte de personnage anthropomorphe avec une tête de coq. Ses jambes sont en fait deux serpents, et il possède un fouet dans une main et un bouclier dans l'autre. Donc c'est un symbole solaire, démiurgique, qui répond à certains codes numériques formant en fait les 365 jours de l'année. Donc c'est un archétype en fait de la figure du démiurge, organisateur du monde. Alors du coup, l'idée des gnostiques templiers est née un petit peu de là. L'idée de ce symbole, donc cet abraxas, qui est une figure gnostique de l'Antiquité, se retrouve dans des contre-sceaux templiers du Moyen-Âge, et évidemment, cela se retrouve avec la figure du Baphomet, telle qu'elle est définie au XIXe siècle par Eliphas Lévi et d'autres occultistes, qui, le Baphomet, dans la vision Eliphas Lévi, qui est une figure gnostique des mouvements occultistes du XIXe. Donc, par pont, nous avons un Abraxas, figure démiurgique de l'Antiquité, un Abraxas au Moyen-Âge, figure démiurgique au sein du Temple, et le Baphomet d'Eliphas Lévi, qui est également une figure démiurgique qui reprend sensiblement les codes de l'Abraxas. Voilà sur quoi se base la théorie gnostique des Templiers. Mais nous allons voir qu'il y a un problème dans cette histoire. Et ce problème, c'est le Baphomet. Qu'est-ce que le Baphomet ? Alors, je vais vous citer tout d'abord un extrait d'une lettre de 1098 d'Anselme II de Ribemont, compagnon de Godefroy de Bouillon lors de la première croisade, et qui va relater le siège d'Antioche lors de la première croisade. Alors, ça c'est important sur plusieurs aspects. C'est la première occurrence littéraire du Baphomet, et cela aura lieu avant la naissance de l'ordre du Temple, et surtout avant même que Hugues de Pin, le fondateur de l'ordre, ne se soit rendu pour la première fois en Orient. Quelle est cette phrase ? Alors que l'aube pointait, ils invoquèrent bruyamment Baphomet, et nous priâmes silencieusement notre Dieu en nos cœurs, alors nous attaquâmes, et ils furent rejetés des murs de la cité. Alors c'est très simple, dans cet extrait de texte, Baphomet est une mauvaise traduction de Mahomet, le prophète de l'islam. Tout simplement, Baphomet à cette époque est simplement une mauvaise connaissance littéraire des croisés qui vont attribuer donc ce mot au nom du prophète de l'islam, par un jeu de traduction. Donc le Baphomet est une déformation du nom du prophète de l'islam, mais n'a aucun lien avec le temple, et ce rapprochement sera fait uniquement par les occultistes du XIXe siècle. Car voyez-vous, une chose est très importante, les Templiers n'ont jamais employé le terme de Baphomet. Ils n'ont jamais utilisé ce mot, ils n'ont jamais, évidemment, pour éviter tout rapprochement, les Templiers n'ont jamais été convertis à l'islam, les Templiers n'ont jamais offert de révérence au prophète Mahomet, du coup, et non, encore une fois, je rappelle, jamais utilisé le nom de Baphomet. Alors, il existe d'autres interprétations linguistiques du Baphomet, des interprétations en langue des oiseaux ou d'autres logiques numériques ou autres, mais toutes ces interprétations et ces hypothèses datent du XVIIIe ou XIXe siècle et de ce fait ne sont pas d'époque. Or, la plus ancienne occurrence du terme Baphomet date bien de 1098 dans un contexte de guerre et de croisade, ce qui donne une explication assez rationnelle à son étymologie. En revanche, au XIXe siècle, les occultistes vont reprendre cette idée du Baphomet, parce que depuis la légende avait fait son chemin, et vu qu'il y avait eu des légendes de conversion à l'islam, du moins dans l'acte d'accusation, certains dans le procès ont accusé les Templiers de s'être convertis à l'islam, ce qui a été faux, mais chemin faisant par la légende, l'idole mal traduite de Mahomet est devenue Baphomet, et de ce fait, le Baphomet est devenu le nom que l'on a prêté à l'idole templière. Mais nous n'avons toujours pas parlé de cette idole en réalité. Donc, chemin faisant, encore une fois, le mot Baphomet, mauvaise traduction de Mahomet, qu'on a prêté parfois à des conversions des Templiers à l'islam, sera repris au XIXe siècle par des occultistes, notamment Eliphas Lévi, qui a fait du Baphomet une idole gnostique que vous connaissez bien, puisque montré préalablement. Mais qu'en est-il maintenant de l'idole des Templiers? Voici les extraits des interrogatoires, les cinq extraits, qui vont mentionner l'idole des Templiers. Bien sûr, le nom de Baphomet ne sera jamais employé. Alors, je vous les lis. Frère Raymond de Narbonne. Donc, c'est lors des interrogatoires. J'ai isolé seulement les phrases qui nous intéressent. Ensuite, ce commandeur prit une idole au visage noir et laid en forme de tête humaine. C'est tout. Ensuite, frère Stéphane de Béziers. Et il lui montra sur l'autel une idole en forme de tête. Ensuite, frère Déoda Jaffet de Provence. Le maître sortit d'une quelconque caisse une certaine tête ou idole sur laquelle étaient représentés trois visages et lui dit de l'adorer comme son sauveur et celui de l'ordre. Ensuite, frère Raymond Massel d'Aix-en-Provence, il dit que le maître lui exhiba une tête sur laquelle étaient représentés trois visages, il lui dit « Adore-le car il peut te venir en aide ». Ensuite, pour finir, frère Raymond Stéphanie de Narbonne, celui qui le recevait, lui présenta une tête et lui dit qu'il devait l'adorer. Il lui dit que cela lui semblait être une tête blanche avec une barbe. Et voici les seules et uniques occurrences de l'idole templière dans les interrogatoires. Peut-être avez-vous déjà remarqué à la lecture de ces extraits qu'il y a une certaine chose qui semble revenir. C'est la notion géographique. Les cinq frères qui ont mentionné avoir vu personnellement l'idole du temple étaient de Narbonne, de Béziers, d'Aix-en-Provence, si vous préférez, du sud de la France, Languedoc-Roussillon-Provence. C'est intéressant puisque cela donne une connotation géographique aux Templiers qui ont vu l'idole. Mais à aucun moment cette idole n'est nommée, on parle d'une tête, en général hideuse, pas toujours, on la représente parfois avec trois visages, avec une barbe, tête blanche, etc., etc. Donc, on peut dire à ce stade que s'il y a eu dans l'ordre du temple une vénération pour une idole, cette idole était simplement la vénération d'une tête de type relique, qui en soi n'a de ce fait pas forcément de choses hérétiques aux yeux de la chrétienté. Je vous rappelle que le culte des idoles est présent dans la religion catholique chrétienne et de nombreux vestiges de saints, des ossements, des morceaux de corps, des corps entiers ou des têtes momifiées ou autre, tout ce que vous voulez, existent tout à fait dans la religion catholique chrétienne. De ce fait, le fait que les Templiers aient pu vénérer une idole n'est pas en soi une chose incohérente. En revanche, le fait que ces Templiers aient du mal à en parler est un rejet pour cette idole peut venir de plusieurs choses, peut venir, un, du fait de la torture, peut venir dans une volonté de préservation de ce fait pour éviter qu'on nous associe à cette idole, et une troisième chose peut venir du fait que cette idole était une relique, mais qui ne répondait pas tout à fait aux mêmes codifications que les idoles classiques de la chrétienté. Et cela nous renvoie préalablement donc au mystère de l'ordre secret. Y avait-il, au sein de l'ordre du temple, une tradition secrète, une sorte de petit courant, de petit cercle intérieur qui aurait pratiqué des rites différents et notamment avec la présence de cette idole templière? Cela est possible, mais nous sommes dans l'hypothèse. Qu'est-ce qui permet à ce stade de l'appuyer? Eh bien, pas grand-chose. Nous savons qu'il y a un personnage qui s'appelait Roncelin de Fosse, qui était un personnage, un dignitaire de l'ordre qui a vécu au XIIIe siècle, milieu du XIIIe siècle. Et ce personnage Roncelin de Fosse s'est mis en marge du temple et a prêché une doctrine qui était sensiblement différente, une sorte de statut spécifique, de statut secret du temple, qui était diffusé dans son secteur géographique. Notons que Roncelin de Fosse a passé la plus majeure partie de son temps dans le sud de la France et l'Ibérie, ce qui pourrait expliquer la présence de cette idole en Ibérie. Néanmoins, je reste prudent, ceci est une hypothèse, puisque les documents attribués à Roncelin de Fosse sont eux-mêmes historiquement contestés, et donc, encore une fois, cela reste fragile. Autre chose, nous avons à la même période les sceaux donc de l'Abraxas, pour être exact, des contre-sceaux. Alors les contre-sceaux, ce sont des choses que l'on appose sur des lettres pour les cacheter, vous savez, pour des contenus secrets. Donc il n'était pas rare que les Templiers utilisent ces contre-sceaux sur leur communication afin de transiter des lettres au caractère secret. Néanmoins, nous avons un personnage qui s'appelle André de Collour, donc qui a été commandeur des paillis, qui possédait comme sceau, donc les sceaux templiers, chaque commandeur ou chaque dignitaire de l'ordre avait un sceau, souvent avec des représentations comme l'Agnus Dei, comme le Saint-Sépulcre ou d'autres symboles typiques du symbolisme chrétien. Mais certains d'entre eux, comme André de Collour, ont porté en sceau un Abraxas, avec l'écriture dessus, le Secretum Templi, qui veut dire le secret du temple. Donc, comprenez qu'à ce stade, sans pouvoir vous donner aucune affirmation, il est envisageable qu'il y ait eu un cercle dit secret ou discret au sein de l'ordre du temple qui ait pu graviter dans le sud de la France, éventuellement vers le Roussillon également, ce qui expliquerait tout à fait déjà la position qu'ont eu les Templiers donc dans cette commanderie du Mas Déu dans les Provences et Pyrénées-Orientales, mais pour expliquer également le fait que certains Templiers aient eu le témoignage de cette idole, principalement dans le sud de la France, et aussi avec, bien que contestable, les documents de Roncelin de Fosse ou les sceaux d'André de Collour, comme le Secretum Templi, qui sont différents éléments, insuffisants certes, mais qui permettent d'hypothétiser et d'ouvrir la porte de réflexion à l'existence d'un ordre au sein de l'ordre. Sujet à creuser, ce que je m'attellerai bien sûr dans d'autres émissions. Que peut-on dire à ce stade en conclusion de cette quatrième partie? Y a-t-il un secret au sein du temple? Eh bien oui et non. En réalité, il n'y a pas un secret, mais il y a des secrets. Celui qui va nous intéresser pour le moment, c'est les Templiers étaient-ils gnostiques? Eh bien, je serais tenté de vous dire non. Les Templiers n'étaient pas gnostiques, ils étaient avant tout chrétiens. Néanmoins, à l'intérieur du temple, il semble y avoir des courants. Et ces courants peuvent, dans certains cas, avoir adhéré à certaines pensées ésotériques, et notamment au gnosticisme. Pourquoi dans le sud de la France? Eh bien, cela peut s'expliquer, là, ce que je vous dis, c'est purement hypothétique. Cela nécessitera encore des recherches, encore des lectures, et encore beaucoup d'analyses, de réflexions et d'exhumations de sources diverses et variées. La position du sud de la France, donc avec cet épicentre un petit peu qu'est le Mas Déu ou Narbonne, offre une spécificité historique très intéressante. C'est le lieu où va se répandre l'hérésie cathare. L'hérésie cathare qui, je vous rappelle, est une doctrine religieuse appartenant au christianisme, mais manichéenne, avec l'existence d'un dieu bon et d'un dieu mauvais. Pour rester très simpliste, puisque j'ai proposé une académia sur le sujet pour ceux qui voudraient en savoir plus. Donc, tout ça pour dire que les croyants cathares étaient eux-mêmes dans une démarche gnostique. Or, nous savons que les Templiers ne vont pas prendre les armes contre les cathares, et certains ont voulu voir des rapprochements entre cathares et Templiers. Cela n'est pas cohérent si on prend la globalité de l'ordre du Temple, mais cela peut être cohérent sur un point de vue régional. Et c'est là, je pense, que nous tenons un petit peu la clé de cet ordre secret. C'est l'idée que l'idole des Templiers est peut-être quelque chose de régional, de local, qui a attrait au gnosticisme, ou à la gnose au sens plus général. Peut-être que l'idole templière du sud de la France est la même qu'une relique que les cathares auraient pu possiblement posséder. Là, nous sommes encore une fois totalement dans l'hypothèse. Mais ne pas voir le gnosticisme dans la globalité de l'ordre du temple, mais peut-être comme un épiphénomène local, et que la précision des procès, torture ou pas, nous a permis d'isoler sur un point de vue géographique. Car si c'est la torture qui pousse à dire « j'ai vu l'idole », il est quand même assez probable que de nombreux templiers aient pu l'apercevoir un petit peu partout. Il est quand même étrange que ce soit uniquement dans une zone géographique, nous ont des témoignages de cette dite idole. Donc, si ordre secret, il y en avait peut-être plusieurs des ordres secrets, peut-être des courants spécifiques dans différentes régions. Mais en tout cas, il me semble à ce stade évident qu'il a existé un courant interne au sein de l'ordre du Temple qui existait dans ce sud de la France, Languedoc, peut-être Provence, peut-être nord de l'Espagne, du moins dans ce qu'on pourrait appeler un petit peu le Roussillon de nos jours. Et je pense que c'est là que nous tiendrons la piste de la gnose templière, si on peut dire, ou des rites secrets templiers qui ont présenté cette idole. Mais finissons-en avec le Baphomet. Le Baphomet est un mot qui n'a pas existé au sein de l'ordre du Temple, qui n'était pas nommé. C'est un mot qui est une mauvaise traduction littérale du terme Mahomet, qui entrera dans le légendaire templier et qui sera réemployé par les occultistes du XIXe siècle. Aujourd'hui, le Baphomet a son identité propre. C'est devenu un symbole à part entière de l'ésotérisme. Mais ce n'est pas le nom et ce n'est pas et la représentation que nous avons du Baphomet aujourd'hui, donc qui a été créée par Eliphas Lévi, cette représentation et ce nom n'ont rien en commun avec l'idole qui a eu trait dans cet ordre interne des Templiers au cours des 12-13e siècles, éventuellement. Voilà pour cette quatrième partie, et nous allons pouvoir aborder la cinquième, qui va parler de l'héritage du Temple, ou de son éventuelle survivante, et de toute la complexité de ce sujet. La survivance d'un ordre au sans-visage. Je n'avais pas trouvé d'autres mots pour mieux expliquer la vision de ce qu'on appelle le néo-templiarisme. Et justement, dans une première phase, nous allons faire la présentation de ce qu'est le néo-templiarisme ou les néo-templiers. On va parler de la filiation, ou du moins de l'hypothèse de la filiation entre templiers et francs-maçons. On va ensuite parler des ordres néo-templiers qui vont naître à partir du début du XIXe siècle. On parlera du cas bien particulier de la résurgence d'Argigny, qui est sûrement l'élément fondateur du templiarisme moderne. Et puis nous terminerons avec le dernier élément qui fera office de conclusion, les Templiers, une histoire de paradoxe. Nous allons reprendre les différents éléments des secrets qui gravitent autour du Temple d'hier et d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, présentation du néo-templiarisme. Comment s'articule un petit peu cette histoire? Il existe des courants, aujourd'hui mais à partir du XVIIe siècle, qui se revendiquent de l'héritage des Templiers, et qui, par souci de légitimité, vont tenter de se créer légitimement ou frauduleusement une filiation avec les Templiers, à coup de documents et autre chose. Alors, il y en a quatre qui peuvent être identifiées. La première, c'est celle qu'on appelle la filiation Beaujeu. Alors, Jacques de Molay aurait confié la tâche à François de Beaujeu, qui n'était pas un membre de l'ordre. Il lui aurait demandé de récupérer un écrin de cristal. De Molay aurait initié Beaujeu et lui aurait confié la mission d'assurer la survie du temple. Et Beaujeu réunit 9 chevaliers à son tour, 9 chevaliers de l'ordre rescapés, et il aurait juré de maintenir l'ordre en vie de façon secrète. Alors, cette filiation Beaujeu est l'une des premières théories donc d'un ordre secret du temple qui aurait survécu dans l'ombre après sa destruction officielle, en reprenant les codes des 9 chevaliers créateurs de l'ordre initial et des 9 chevaliers de l'ombre qui auraient maintenu l'ordre en vie. Et donc cette filiation, par quelques coups de baguette magique, serait arrivée jusqu'au XVIIe siècle, enfin jusqu'au XVIIIe siècle. Évidemment, les documents qui tentent d'affilier cette filiation sont de faux documents ou des documents qui ne sont pas de première main, qui sont des copies de choses, donc il est impossible de valider la réalité de cette filiation. La deuxième, c'est la filiation d'Aumont. Donc au soir du 18 mars 1314, donc au moment de l'exécution sur le bûcher de Jacques de Molay, Aumont et 7 autres chevaliers auraient récupéré les cendres de Jacques de Molay en jurant de venger l'ordre. Aumont se serait alors rendu en Écosse, et le 24 juin 1315, sur l'île de Mull, il aurait été désigné comme nouveau grand maître de la milice du Temple. Ce noyau des Templiers serait à l'origine de la constitution de la loge maçonnique et des Roms, ou Sainte Maison. Donc là, on a la filiation dite écossaise, et la filiation légendaire entre la filiation d'Aumont donc, et la franc-maçonnerie. Donc on parle encore une fois d'un ordre secret qui vivrait dans l'ombre, hein, bien sûr. Ensuite, on a la filiation la plus connue et sûrement la plus importante de nos jours, puisqu'elle est celle duquel, on va dire, 80 ou 90% des courants du néo-templiarisme utilisent. C'est la filiation l'Arménius. Alors, comment ça s'articule? Frère Jean-Marc de l'Arminius, commandeur de Jérusalem, un des notables qui existait hein, de l'ordre du Temple, aurait été désigné par de Molay comme futur grand maître. Il fut nommé grand maître de la milice du Temple en 1314, après la mort de Jacques de Molay. Et donc, Jean-Marc l'Arminius aurait maintenu l'ordre en vie, un ordre secret, non visible, dans le but que ce dernier se réveille un jour dans des temps futurs. Et c'est évidemment cet argument qui sera employé par le néo-templiarisme. Bien sûr, pour la filiation d'Arminius, on est encore dans une série de faux documents improbables historiquement. Ensuite, pour finir, on a la filiation de Geoffroy de Gonneville. Donc ce dernier aurait été désigné par de Molay comme successeur. Il aurait réuni un chapitre en Dalmatie, puis serait parti en Asie centrale où l'on perd sa trace. Une filiation qui est rarement utilisée, mais qui le sera quand même dans certains courants minoritaires du néo-templiarisme. Sur un point de vue historique, aucune de ces quatre filiations ne peut être attestée par des documents authentiques et certifiés. Sur un point de vue historique, ces quatre filiations sont considérées comme fantaisistes. Ça, c'est important de le préciser. Alors, parlons maintenant des Templiers et des francs-maçons. Alors, je ferai une autre émission spécifique, dédiée uniquement à la filiation entre Templiers et francs-maçons. Ce serait trop long pour rentrer dans tous les détails de cette immense toile d'araignée. Alors, on va rester sur les points essentiels de la lecture donc de cette filiation. Alors, au tout début, les constitutions des premiers francs-maçons, donc en 1717, donc la constitution d'Anderson, rattache plutôt l'ordre de la franc-maçonnerie à un héritage qui vient des constructeurs de cathédrales ou des ouvriers de métier du Moyen-Âge. La filiation avec le Temple va commencer à être hypothétisée à partir de 1736, donc soit quelques années plus tard, dans un discours, celui du chevalier de Ramsay. Alors, le chevalier de Ramsay, donc un franc-maçon écossais qui vivait en France, va faire un discours comme quoi il présente la maçonnerie comme l'héritage des chevaliers des croisades. Mais il ne fait pas spécialement référence plus aux Templiers qu'aux chevaliers de l'hôpital, par exemple. Il parle des croisés plutôt au sens générique. Après, dans une deuxième version du discours, on va plutôt avoir une référence aux chevaliers hospitaliers, etc. Mais assez rapidement, le légendaire Templier ayant fait son chemin, la franc-maçonnerie se place, ou du moins pour certains d'entre eux, se place dans une filiation héritière de l'ordre du Temple. Alors c'est notamment le cas d'un maçon célèbre de l'époque qui s'appelle Karl Gotthelf von Hund, donc un noble allemand, qui prétend, on est dans l'hypothèse hein, bien sûr, qui prétend avoir été initié au rite templier, donc un rite maçonnique templier, par Charles Edward Stuart, le prétendant au trône d'Écosse, au trône d'Angleterre et d'Écosse, en 1743. Alors, Karl von Hund était franc-maçon et vénérable d'une loge parisienne, et donc aurait été initié au haut grade de la maçonnerie, qui était donc de rite templier. Alors comment ça s'articule un petit peu? Je vous rappelle qu'en franc-maçonnerie, il y a ce qu'on appelle les loges bleues, donc les apprentis, les compagnons et les maîtres, et au-dessus, il y a les hauts grades, qui sont des grades un peu plus rocambolesques, avec des noms comme chevalier du temple, etc., tout ça. Et notamment donc ce rite templier, soi-disant que von Hund aurait récupéré. Quelques années plus tard, en 1755, ce baron de Hund va créer une nouvelle obédience, une nouvelle structure maçonnique de l'époque, qui s'appelle la stricte observance templière, et le but de cette nouvelle obédience maçonnique est de restaurer l'ordre du temple médiéval dans ses possessions territoriales et sa puissance de l'époque. Donc son but, c'est clairement de ressusciter l'ordre du temple, de lui redonner sa puissance temporelle. Cela va durer et aura un essor pendant un certain temps, mais cela va évoluer de nouveau en 1782, dans une nouvelle, ce qu'on appelle le convent de Wilhelmsbad, donc une réunion générale de toutes les loges de la stricte observance templière, et de d'autres maçonneries d'ailleurs aussi, qui ont pour but de réformer, de restructurer un petit peu la stricte observance templière, et cela va aboutir à la création du RER, ou le régime écossais rectifié, un rituel maçonnique qui est toujours pratiqué de nos jours, par Jean-Baptiste Villermoz, un Français. Dans ce nouveau rite maçonnique, le RER qui remplace la stricte observance templière, ce sera l'abandon de la filiation historique avec les templiers, mais à la place, elle sera remplacée par un héritage dit symbolique. Donc à ce stade, les francs-maçons qui pratiquent le RER ne pensent pas être les héritiers historiques de l'ordre du Temple, mais pensent être leurs héritiers symboliques, ce qui n'est pas la même chose, bien entendu. Néanmoins, il y a encore des courants qui s'affrontent à cette époque entre certains maçons qui pensent qu'il y a un héritage uniquement symbolique de l'ordre du Temple et d'autres qui pensent à un héritage historique. Si on parle d'héritage symbolique, cela sous-entend qu'on prête déjà à cette époque aux francs-maçons une certaine quête gnostique ou du moins spirituelle. Voilà, sujet dont je retoucherai un mot en conclusion. Notons également que d'autres rites maçonniques ont également une présence templière, notamment le cas du rite d'York aux États-Unis, dont le dernier grade, le plus haut degré, est celui de chevalier templier. Voilà, et on va trouver ça également minoritairement dans d'autres cours. Alors, là, on est sur la filiation entre templiers et francs-maçons qui se veut plus symbolique qu'historique, du moins en apparence immédiate. Ce ne sera pas le cas des ordres dits néo-templiers qui gravitent proche de la franc-maçonnerie, mais qui en sont quand même différents. Alors, les ordres néo-templiers vont commencer avec un singulier personnage qui, accessoirement, est né dans le Tarn, dans la ville de Cordes-sur-Ciel, à peu près 20 km de chez moi. Et ce personnage s'appelle Bernard Raymond Fabré Palabra. Alors, qui est-il ? Fabré Palabra était un médecin qui va s'installer à Paris et qui va rejoindre, tout naturellement, comme tous les notables de l'époque, la franc-maçonnerie. Il va rencontrer un autre personnage qui s'appelle Jacques-Philippe Ledru, et ce dernier va lui expliquer qu'il existe une tradition templière secrète qui se poursuit depuis le Moyen-Âge. Jacques de Molay aurait été le 22e grand maître de l'ordre du Temple, Hugues de Pin était le premier, Jacques de Molay était le 22e, mais il y aurait eu ensuite des maîtres secrets et un ordre secret qui aurait survécu depuis le Moyen-Âge et qu'il fallait réveiller. Et dans cet ordre secret, qui commence avec un personnage qui s'appelle donc Jean-Marc de l'Armédius, qui aurait été le premier maître secret de l'ordre, il y a encore eu 22 grands maîtres, et nous arrivons à l'époque, donc tout début du 19e siècle. Fabré Palabra, séduit par ces hypothèses, va trouver, comme par magie, un coup de baguette magique, il va trouver une charte, la charte l'Armédius, qui raconte tout ce que je viens de vous présenter, datée soi-disant de 1324, mais qui, malheureusement pour lui, est un faux document, ou du moins un document qui est une copie, et donc qu'on ne peut pas dater et qu'on ne peut pas attester comme étant véridique de l'époque. En 1812, Fabré Palabra est nommé grand maître de l'ordre du Temple restauré, c'est-à-dire l'ordre du Temple qui reprend vie, qui se réveille, et cela donne naissance à une organisation, une nouvelle organisation qui est de type Église Joannique Templière. Donc il faut bien comprendre que ce mouvement créé par Fabré Palabra est un mouvement qu'on peut qualifier de paramaçonnique, c'est-à-dire qu'il ressemble à une organisation maçonnique, mais il n'en est pas une. C'est un courant où les gens sont chrétiens, mais chrétiens de tradition joannique, et quand on dit templière, cela ne veut pas en soi dire grand-chose, cela veut dire en gros qu'ils sont dans une démarche gnostique, chrétienne et joannique. Voilà. Alors Palabra va mourir en 1838, et son ordre néo-templier va éclater en plusieurs branches, il y aura des scissions, mais néanmoins, l'ordre du temple qu'il a créé, qui n'a, comprenez-le bien, aucun lien historique avec l'ordre du temple médiéval, si ce n'est par une filiation légendaire, la filiation l'Arménius. Dans tous les cas, cet ordre nouvellement créé va subsister jusqu'en 1863. Et c'est là qu'on va commencer à voir quelques petites ramifications de filiation de ces néo-templiers. Alors, je vous en ai mis seulement quelques-unes, il en existe en réalité des centaines. Je vais vous les mettre les plus marquantes, ou les plus connues, ou celles qui sont les plus anecdotiques, du moins. Alors, pour citer quelques-unes de ces filiations, tous ces courants que je vais vous citer maintenant sont tous nés du mouvement de Fabré Palabra, sauf un, que je stipulerai au milieu. Alors, en 1890, on va voir la naissance de l'ordre catholique de la Rose-Croix du Temple du Graal par Joséphin Péladan. Alors, Joséphin Péladan était un mystique rosicrucien, occultiste de son temps, qui va créer une sorte de nouvelle société kabbalistique, mais qu'il plage dans une démarche d'héritière de la Rose-Croix, mais également, de ce fait, héritière des Templiers, parce que dans son esprit, la Rose-Croix était l'héritière du Temple préalablement. Alors, Joséphin Péladan ne se place pas dans l'héritage de Fabré Palabra, même si lui-même a été proche de ses courants. Donc, il est, dans une certaine mesure, l'une de ces ramifications du néo-templiarisme de Fabré Palabra. Mais pas uniquement. Alors, en 1905, et ce jusqu'à 1938, on va avoir la création de l'ordre nouveau du Temple en Allemagne, donc par Adolphe Joseph Lanz, qui est une des ramifications de celui créé par Fabré Palabra préalablement. Ensuite, en 1908 et jusqu'à 1911, vous allez reconnaître un personnage bien célèbre, c'est René Guénon, grand spiritualiste de son temps, qui sera lui-même à l'origine de la création d'un ordre du Temple, mais de néo-templiers, comprenez bien. Alors René Guénon se place lui-même dans ses démarches, de ses ramifications de Fabré Palabra, de son temps, et il va ce petit ordre va exister pendant à peu près 3 années, qui sera proche de d'autres occultistes de son temps, comme Papus et autres. En 1910, nous aurons le réveil du rite écossais rectifié dont nous avons parlé préalablement, qui avait disparu de France après la Révolution française, au milieu du 18e siècle, du 19e siècle pour être exact, et qui va réapparaître sur le sol français via deux francs-maçons du Grand Orient de France, Camille Savoir et Pierre de Ribeaucourt, qui vont rapporter ce rite qui était maintenu en Suisse et vont le remettre en France. Alors évidemment, le rite écossais rectifié ne se place pas dans un héritage historique avec l'ordre du Temple, mais dans un héritage symbolique, et il n'est lui-même pas issu de la filiation Fabré-Palabra, il est issu de la création du XVIIIe siècle. Alors, pour l'anecdote, on va avoir aussi en 1919 l'ordre de Molay à Kansas City, un ordre néo-templier quelconque, qui gravite un peu avec les sphères de pouvoir, et dont, pour l'anecdote, Walt Disney sera membre. Et après, on touche les trucs un peu plus costauds. En 1945, ce sera la création de l'OSMTJ, ou l'ordre souverain et militaire du Temple de Jérusalem, de filiation Fabré-Palabra, comme vu préalablement, par Antoine Zdrojewski. Voilà, ordre qui existe toujours de nos jours et qui est l'une des plus grosses organisations néo-templières actuelles. Alors, va se produire un événement d'après-guerre qui va tout changer. C'est ce qu'on appelle la résurgence d'Argigny en 1952. Celle-ci est pilotée par un personnage qui s'appelle Jacques Brière. Ce dernier, donc un mystique de son temps, s'installe au château d'Argigny, qui était réputé pour être un ancien lieu templier, avec une légende bien sûr de trésors du temple dans ce lieu. Mais Jacques Brière était un mystique qui pratiquait des rituels dits magiques, qu'on appelle de théurgie. Et avec quelques confrères occultistes, ils vont faire une opération théurgique le 12 juin 1952, et cet événement marque le réveil de l'ordre du Temple, pour eux, et la tentative d'union des mouvements néo-templiers. Alors, comprenez, la filiation de Jacques Brière, enfin Jacques Brière lui-même, ne se place pas dans la filiation Fabré-Palabra. Il ne se place pas non plus dans toutes les filiations templières qui ont existé avant lui. Pour lui, c'est via un rituel théurgique qu'il est entré en contact avec l'égrégore de l'ordre du Temple médiéval. Voilà. Mais, étant donné ce contact dit magique, eh bien, Jacques Brière et ses confrères vont tenter d'unir tous les mouvements néo-templiers de leur temps, de les réunir autour de cette résurgence Argigny et de ce rituel théurgique qui a eu lieu. Et cela va plus ou moins avoir lieu, du moins au départ. Mais, rapidement, cela va éclater. En tout cas, cet élément reste l'événement fondateur du néo-templiarisme moderne, puisque de près ou de loin, tout ce qui va exister dans le monde des néo-templiers a un rapport de près ou de loin avec cet événement de la résurgence d'Argigny et donc de Jacques Brière. Alors néanmoins, il y a des choses intéressantes, c'est que certains francs-maçons de la Grande Loge Nationale de France vont rejoindre justement Jacques Brière et vont rejoindre ce mouvement néo-templier d'Argigny, notamment Vincent Planck et Pierre de Ribeaucourt, fils du fondateur de l'obédience, dont nous avons vu préalablement qu'il était, de Ribeaucourt père, était l'un de ceux qui avait ramené le rite écossais rectifié en France, et son fils, plus tard, va rejoindre ce courant aussi néo-templiariste. Donc on voit en fait toute cette présence du temple qui gravite un petit peu avec la maçonnerie et qui flirte perpétuellement, si l'on peut dire. Alors, dans tous les cas, on voit certains francs-maçons de l'époque qui sont séduits par ce néo-templiarisme, ce réveil, cette résurgence templière. Et cela va amener d'ailleurs à des scissions et créations d'obédience au sein de la maçonnerie. Jacques Brière, quant à lui, reste le père donc, du néo-templiarisme moderne avec cette résurgence, et cela va amener à tout un tas de filiations encore nouvelles qui prennent des filiations variables hein, sur les filiations légendaires qu'on a parlé au début de cette partie, mais qui vont tous graviter et passer par le prisme qu'est la résurgence d'Argigny. Voilà. Alors en 1962, on va avoir le souvenir templier de Boulogne, donc créé par Philippe Encausse et Robert Ambelin, donc deux occultistes célèbres, Philippe Encausse qui est le frère de Papus, je vous rappelle, donc petit ordre néo-templier qui va graviter quelques temps. Plus important, on va avoir en 1966 l'ordre souverain du temple solaire, l'OSTS, créé par Jean Soucas, donc qui était un des confrères de Jacques Brière préalablement. Jacques Brière va d'ailleurs s'en éloigner, il va fuir cette organisation, puisqu'il va rapidement constater que ses ordres néo-templiers s'éloignent complètement de la démarche initiale. Ensuite, plus important, on va voir en 1968 l'ordre rénové du Temple, l'ORT, à Chartres, par Raymond Bernard. Et cet ordre rénové du Temple va avoir une histoire assez rocambolesque, puisque, après Raymond Bernard, un autre grand maître va prendre la tête, qui s'appelle Julien Orgias, ou Orgias, si je ne dis pas de bêtises, Et ce même personnage gravitait lui-même avec les milieux fascistes de la Seconde Guerre mondiale. Et lorsque ce second maître va disparaître, il va confier les rênes de cet ordre rénové du Temple à un autre personnage que vous connaissez peut-être et qui s'appelle Luc Jouret. Luc Jouret, qui était un médecin de son époque, va prendre la tête de l'ordre rénové du Temple, mais il y aura une dissension interne, ce qui fait que l'ordre va éclater en deux morceaux. Et Luc Jouret va devoir partir avec une partie des membres. Et il va rencontrer un autre acolyte, qui s'appelle Joseph Di Mambro, personnage qui est aussi lui de la Rose-Croix, de la Morque. Et ensemble, ils vont créer une nouvelle organisation qui s'appelle l'Ordre du Temple Solaire, dont vous avez évidemment bien entendu entendu parler aux informations, avec ces fameuses histoires de suicides collectifs qui ont lieu en 1994. Donc, pour conclure sur ces filiations diverses et variées, à ce jour, il existe plus de 100 groupes néo-templiers à travers le monde. Si la plupart sont totalement inoffensifs et s'attachent à des quêtes de nature spirituelle, certaines dérives existent et sont suivies par des organisations anti-sectes. Donc, le néo-templiarisme recèle le meilleur comme le pire. On trouve absolument de tout. Certains se placent dans une démarche du christianisme le plus dur, certains se placent dans une démarche du christianisme johannique, c'est-à-dire à tendance un petit peu plus gnostique, certains se placent dans une démarche complètement spirituelle, sans aucune connotation religieuse, diverse et variée. Il y a absolument de tout. Le néo-templiarisme est une énorme pelote de laine qui semble, de prime abord, totalement impossible à démêler. Et on va voir énormément de personnages du milieu de l'ésotérisme, également de la spiritualité, graviter de loin avec les courants du néo-templiarisme. Souvent, qui sont derrière, qui sont invisibles. Et là, on peut parler de ramifications et d'organisations un peu complexes, à tiroir un petit peu, si vous voulez. Le néo-templiarisme est vraiment à la base d'énormément de courants spirituel occulte qui existe de nos jours modernes. Alors, je ne suis pas en train de vous parler de grands complots mondiaux, je ne suis pas en train de vous parler d'Illuminati ou de tout ce que vous voulez, je suis en train de parler du néo-templiarisme qui est en fait l'illustration de ce qu'est ce point Godwin qu'est les Templiers. Je reprends un petit peu cette histoire. Les Templiers, historiques du Moyen-Âge, sont une organisation de moines ayant une vie monastique et de l'autre côté, étant des chevaliers qui se battent pour une cause, celle des croisés, défendre la Terre Sainte, etc. Ça, c'est les bases historiques. Après, il y a des mystères. Trésors matériels, pas vraiment. Trésors spirituels, peut-être. Peut-être qu'il y a eu, au sein de l'ordre du Temple, des courants internes, des ordres secrets, qui ont pu avoir des pensées gnostiques ou à connotation ésotérique avec des documents ou éventuellement une idole. Alors, rappelons-nous qu'il est tout à fait possible que, restons dans cette hypothèse, que les Templiers aient pu faire des fouilles, aient pu mettre la main sur des documents dans des bibliothèques ou des archives ou des souterrains en Orient, aient pu rapporter ces documents en Europe, et cela a pu faire germer en eux une pensée différente, une pensée gnostique, un christianisme légèrement différent, par exemple de type johannique, etc. Cependant, il ne faut pas voir ça dans la globalité du temple, il faut voir ça vraiment comme quelque chose de réduit à un petit cercle que, pour ma part, j'hypothétise dans le sud de la France, dans la version un petit peu la région Roussillon, autour de la commanderie du Masdéou. Voilà, c'est ma théorie actuelle, qui nécessitera d'être creusée pour être étayée par des éléments, bien sûr. En revanche, à ce stade, les Templiers vont disparaître entre 1307 et 1314. L'hypothèse d'une survivance du temple ne peut pas être prouvée sur un point de vue historique. Les filiations sont caduques, les documents ne sont pas prouvés. La plupart du temps, ce sont des constructions qui sont facilement démontables, et d'autres fois, ce sont des copies qui, donc, de ce fait, sont indatables et impossibles à recontextualiser. Donc, nous n'avons pas d'éléments qui permettent d'attester une survivance directe du temple par les filiations que je vous ai montrées tout à l'heure. Il reste néanmoins le cas d'une survivance écossaise, possible, peut-être que l'ordre a subsisté sous de nouvelles formes en Écosse. Mais cela ne serait pas tellement étrange, puisque c'est le cas en Espagne. Je vous rappelle que, Espagne et Portugal. Au Portugal, l'ordre du Temple a survécu. Il a un nom, il s'appelle l'ordre du Christ. Voilà, mais pas de connotation ésotérique, pas de connotation gnostique. C'est un ordre militaire de moines chevaliers qui va poursuivre sa mission sous un autre nom au Portugal. En Aragon et à Valence, c'est également le cas. L'ordre du Temple n'est pas mort, il a changé de nom. Il s'appelle l'ordre de Montessa, il n'a pas de connotation spécifiquement ésotérique. il a une connotation de ce sont des moines et des chevaliers qui se battent pour la Reconquista. La Terre Sainte est perdue, mais la Reconquista était encore à faire en Espagne. Donc le temple, il a survécu, historiquement, sous deux formes. L'idée qu'il ait pu survivre également en Écosse dans une forme semblable est tout à fait cohérente. Il n'y a rien de spécialement mystique avec ça. Le problème de l'ordre du temple, c'est de vouloir tout mélanger. On veut mélanger les survivances du temple réel avec l'idée de ces templiers gnostiques, avec cette vénération d'une idole. Mais cela n'a pas forcément rapport. Peut-être qu'il y a une survivance guerrière et monastique de l'ordre du temple, et peut-être qu'il y a aussi une survivance gnostique dans ce secteur géographique, et qui va peut-être se déplacer ailleurs. Mais il ne faut peut-être pas les coller entre elles. Peut-être que ce sont deux filiations tout à fait différentes. Alors, ça c'était sur le point de vue historique. Et une hypothèse de la survivance, bien sûr, parce qu'on ne peut pas la prouver à ce stade. Quand on arrive au néo-templiarisme du XVIIIe siècle, là, les filiations sont légendaires. Il n'y a pas d'éléments sur lesquels s'appuyer. Tous les courants néo-templiers qui vont se créer à cette époque se basent sur l'idée de vouloir ressusciter l'ordre du temple. Parce que l'ordre du temple véhicule le mystère, il véhicule tout un tas d'idées. Et on va y accoler tous ces fantasmes. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a 100 ordres néo-templiers différents, ou 100 filiations légendaires avec l'ordre du temple. Aucune de ces 100 filiations ne peut prouver légitimement son lien avec l'ordre du temple médiéval. En revanche, les 100 ordres se détestent tous entre eux quasiment, et ont tous une vision propre et une idéologie propre sur ce qu'étaient les Templiers au Moyen-Âge. Et c'est pour ça que je vous disais, les Templiers, c'est une histoire de paradoxe aux 100 visages. Car aujourd'hui, dans tous ces ordres néo-templiers, il y a bel et bien 100 visages qu'on prête à l'ordre du Temple. Certaines fois on dit qu'ils étaient chrétiens, certaines fois on dit qu'ils étaient gnostiques, certaines fois on dit qu'ils étaient convertis à tout ce que vous voulez, etc., etc., etc. Mais pourtant, la vérité historique est, à mon sens, relativement simple. Du moins, c'est la théorie que je défends. Les Templiers, oui, ils étaient chrétiens. Mais, en leur sein, il existait des gens qui ne l'étaient peut-être pas au sens dogmatique de la religion chrétienne. D'où ces idées de l'ordre secret. Alors, peut-être serez-vous déçus de ne pas avoir une révélation ultime ou quoi que ce soit dans cette émission. Mais un, ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma mission. Et je ne suis pas là pour vous raconter des mythos, si je puis dire. Je ne suis pas là pour vous vendre une théorie abracadabrante. Je me pose des questions et je vous ouvre des portes de réflexion et d'hypothèses. Des réflexions et d'hypothèses qui sont en cours de réflexion pour moi-même, que je tenterai dans les années à venir d'étayer perpétuellement. Puisque vous le savez, l'ordre du temple est un de mes vieux londernes, c'est un de mes sujets préférés, un sujet où je passe le plus de temps à l'étude. Et ce que je vous livre aujourd'hui est un petit peu une sorte de récit de carnet de route sur des réflexions sur l'ordre du temple, je vais pas dire vulgarisant, c'est pas le terme, mais tout en restant quand même relativement simple, puisqu'on pourrait citer tous les documents, les extraits de textes et tout un tas de choses. Donc l'ordre du temple, c'est un sujet qui reviendra en Academia, qui reviendra sur la chaîne et autres, sous d'autres façons. Puisque cette quête n'est pas finie, elle nécessite encore du travail, encore de l'investigation, pour s'affiner, se perfectionner. Voilà. Mais ce qui est intéressant avec ce sujet spécifique, et c'est sûrement le cas le plus fascinant que j'ai étudié, c'est que si on reste sur l'apparence légendaire du mythe, ça a l'air très très étrange, si on enlève les mythes, qu'on revient un peu dans la réalité, qu'on revient un petit peu dans l'histoire, qu'on élimine les fantasmes, on va savoir que ce qui est sous la couche du fantasme est encore plus étrange, est encore plus mystérieuse, parce que déjà elle est concrète, et ça nous amène à voir qu'on ne comprend rien sur les Templiers, on ne comprend rien parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'ils n'ont pas énormément écrit par eux-mêmes. Il y a uniquement des points de vue d'observation qui viennent de l'extérieur quasiment. Mais aucun Templier lui-même n'a raconté l'histoire de l'ordre, si je puis dire, d'une première main. Et là, on est véritablement dans le mystère. Le sujet des Templiers, on n'est pas prêt, si vous voulez mon avis, on n'est pas prêt de le résoudre entièrement. Et en tout cas, on va tenter de prendre ces mystères un par un pour tenter de trouver quelle était la vérité du Temple et pas ces 100 prismes aux 100 visages. Enfin, ces 100 prismes aux multifacettes qu'on voit de nos jours et qui tentent de se revendiquer des Templiers. Les Templiers sont morts, les Templiers ont disparu, mais leur secret est toujours vivant. Et c'est là, à mon sens, ce que je pourrais vous dire en conclusion de cette émission. Nous voici arrivés à la fin de cette émission et j'espère que vous aurez passé un bon moment. Alors, depuis le tournage de cette émission Enquête, il y a 6 ans, j'ai proposé depuis d'autres émissions, notamment une qui se concentre sur le procès des Templiers et le destin de l'ordre sur un plan purement historique. Puis une autre sur l'héritage des Templiers et notamment sur toutes les filiations hypothétiques et les ordres qui s'en revendiquent et notamment la fameuse filiation d'argile. Donc un voyage dans les arcanes sombres du néo-templiarisme. Ainsi, qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien l'enquête sur les Templiers se poursuit sous de nombreux angles et je pense avoir encore de nombreuses choses à vous dire sur ce sujet dans les années à venir. Alors, si vous avez apprécié ce travail et que vous avez envie d'avoir d'autres vidéos sur les Templiers, eh bien je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne en devenant mécène sur Tipeee ou souscripteur sur YouTube, ce qui vous donne accès aux vidéos privées de l'Académie. Car, encore une fois, je ne le rappelle jamais assez, mais c'est grâce à vous et uniquement à vous que la chaîne existe et que je peux continuer à proposer des émissions sur YouTube. Alors sur ce, je vous souhaite le meilleur pour vous et pour vos proches et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle enquête sur la chaîne Arcana les Mystères du Monde. À très bientôt.